Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Du Trisac. De 6 à 8. Du Trisac.
Avec Benoît Du Trisac. Cube Radio.
Jeudi 27 février 2020. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois sur le leadership politique. Ça existe-tu encore? Aussi, Rachad Antonius, professeur au département de sociologie de l'UQAM, sur les criminels qui sont en baisse de 13% au Canada. Mais tout d'abord, les nouvelles avec Alexandre Dubé.
Et voici tout ce que vous devez savoir ce matin. C'est la météo, entre autres, qui retient l'attention aujourd'hui relativement à ce système dépressionnaire, cette méga tempête qui s'amène. C'est sûr que si vous avez regardé à l'extérieur ce matin, et là, vous vous attendiez à avoir peut-être un pied de neige à l'extérieur. Vous vous êtes dit, coudonc, et où la tempête? Mais patience. Patience, les amis, ça s'en vient. Moi aussi, en marchant vers la station ce matin, je me suis dit, ah ben finalement, c'est tranquille à Montréal, mais on devrait recevoir une dizaine de centimètres au cours des prochaines heures pour Montréal. Ce sera venteux également. Et pour Québec, on attend de 20 à 30 centimètres de neige au cours des prochaines heures, avec des températures stables à près de moins 2 degrés, moins 3 pour Montréal. Mais ce sera vraiment dans les régions comme Charlevoix, par exemple, les Laurentides, on pourrait recevoir là, jusqu'à 40-45 centimètres de neige. Alors, ça varie d'une région à l'autre. Environnement Canada qui a émis un avertissement de tempête hivernale, d'ondes de tempête même, à certains endroits. Et il y a des centaines d'écoles, d'ailleurs, qui ont annoncé leur fermeture pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir retrouver la liste complète au tvanouvelle.ca ou encore au salutbonjour.ca. Le point sur ce 22e jour du blocus ferroviaire. Il y aura finalement une rencontre aujourd'hui entre Ottawa et les chefs héréditaires Wet'suwet'en. Il y a eu un peu de confusion au cours des dernières heures parce que cette rencontre-là avait été finalement annulée de façon assez abrupte. Les Wet'suwet'en qui étaient sortis pour dénoncer, entre autres hier, que les gouvernements souhaitaient qu'ils demandent le démantèlement des barricades aux communautés qui les appuient finalement dans leur combat contre le projet de gazoduc Coastal GasLink. Alors finalement, il y aura rencontre entre les Wet'suwet'en et le gouvernement fédéral aujourd'hui. On verra bien ce qu'il en retourne. Mais pendant ce temps-là, ce qu'on surveillait et ce qu'on continuera, bien sûr, de garder à l'œil aujourd'hui, c'est la situation du côté de Kanawagé. Il y a toujours cette barricade. Il y a eu obtention d'une injonction. Et sur le terrain, il ne se passe toujours rien. Où sont les policiers? Les questions commençaient à être de plus en plus pressantes pour le premier ministre François Legault, qui a fait cette déclaration hier pour justifier un peu l'inaction des policiers.
On a effectivement des renseignements qui nous confirment qu'il y a des armes, des AK-47.
Ouais, alors là, des AK-47, ça fait réagir énormément. C'est bien sûr extrêmement dangereux. M. Legault qui n'a pas précisé si ces armes-là, détenues par les Mohawks, étaient sur la réserve ou sur la barricade. Là, il y a eu réaction. Et vraiment, les Mohawks ne l'ont pas pris du tout. Se sont dit choqués par cette affirmation-là de la part du premier ministre. Les Peacekeepers aussi sont sortis en qualifiant l'affirmation de dangereuse, d'irresponsable. Alors, la suite aujourd'hui, pendant ce temps-là, il y avait également beaucoup de tensions près des rails du côté de Tiendanaga en Ontario. Intervention policière hier soir, où il y avait eu blocus il y a deux jours, qui a été démantelé. Et cette intervention-là survient quelques heures après, vous avez sûrement vu ces images-là, que les Autochtones ont allumé un incendie près d'un train qui était donc... qui circulait sur les rails. C'est extrêmement dangereux, pensez-y, deux minutes, là. Il pouvait y avoir des matières inflammables dans les wagons. Alors ça, c'est un geste qui a été décrié par notamment Justin Trudeau, par le ministre des Transports également, mais l'opposition à Ottawa qui ne s'est pas gênée pour attaquer le premier ministre. Écoutons les commentaires de Justin Trudeau, suivis de ceux de M. Therrien du Bloc québécois et de M. Deltel.
C'est absolument inacceptable que des gens soient en train d'interférer avec les trains. C'est dangereux pour eux et pour la vie d'autres Canadiens.
J'ai toujours pensé qu'il vivait dans un monde de licornes. Mais je m'aperçois aujourd'hui qu'il vit dans un monde d'autruche.
Je pense que s'il y en a un qui a démontré c'est quoi être un vrai premier ministre puis un chef d'État, c'est bien le premier ministre du Québec versus l'espèce de porte-molle qu'on a actuellement à Ottawa.
M. Deltel, donc, des conservateurs... Il y a évolution de la situation aussi concernant le coronavirus, le COVID-19 qui se propage de plus en plus. Ça touche maintenant 50 pays. Hein, si la Chine a contenu peut-être cette épidémie-là. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des foyers d'infection un petit peu partout dans le monde. Le président Trump, hier soir, a affirmé que les États-Unis étaient prêts à répondre à l'épidémie du coronavirus. Et on apprend ce matin, dans le journal, que Québec a acheté en urgence environ 750 000 masques chirurgicaux pour renflouer l'inventaire du réseau de la santé si jamais les réserves mondiales s'épuisaient. Alors, c'est le journal qui nous rapporte ce contrat-là de 207 000 $. Au sport, en terminant, il y avait match de l'Impact hier soir et l'Impact de Montréal a limité le Deportivo Saprissa à un verdict nul de 0-0 au Stade olympique. Conséquence, ben l'Impact se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Là-dessus, les commentaires de l'entraîneur-chef de l'Impact, Thierry Henry.
Ça n'a pas été un match évident, comme vous avez pu le voir. Maintenant, on aurait pu changer le cours du match d'entrée de match avec Bojan, où elle n'a pas bien fini son occasion, et ça peut arriver. On a souffert, à part la frappe à la fin que Clément sort, qui est un peu sur sa trajectoire. On a souffert, mais c'est des ballons souvent qu'ils mettaient dans la surface très tôt et des diagonales très tôt qu'on a pu gérer.
Quant au Canadien de Montréal, il affronte ce soir les Rangers. Ça sera sans Victor Mété toutefois. Saison terminée pour lui. Il s'est fracturé le pied gauche. Pour plus de détails et d'autres nouvelles, rendez-vous sur l'application Cube Radio.
Dutrisac, la première émission de radio à la carte.
Vous vous rappelez de Roseva, cette jeune étudiante camerounaise qui s'est installée à Saint-Jérôme et qui a été expulsée du Canada le 27 janvier dernier. Elle est avec nous. Rose, bonjour.
Oui, bonjour, Benoît.
Bonjour. Alors, d'abord, comment ça va, Rose?
Actuellement, je vais bien. Je me porte très bien. Fait que y a pas de doute à se faire, je vais bien.
OK, parce que tu sais que moi, je suis un inquiet. Hein? Quand j'ai vu que tu as été expulsée du Canada, comment s'est passé le vol quand tu as été expulsée? Dans quel état d'esprit étais-tu?
Dans le fond, j'étais abattue parce que je me suis sentie arrachée au mien. Parce que si je suis retournée, c'était pas par ma propre volonté. Fait que le vol a été vraiment difficile pour moi parce que faut noter que lorsque vous êtes en situation d'expulsion, il y a des zones où vous n'avez pas le droit d'aller, comme quand vous faites une escale quelque part, on vous traite littéralement comme des criminels, quoi, d'enfants. On n'a pas accès à des zones où on peut manger nous-mêmes, s'approvisionner nous-mêmes. On a juste accès à un endroit où on doit dormir s'il faut, en attendant le prochain vol ou les toilettes. Fait que je me suis vraiment sentie mal durant mon expulsion du Québec. Mon ressenti a vraiment été...
Est-ce que la police te suivait? Est-ce que tu avais donc des règles à suivre?
Dans le fond, oui. Mais c'est pas comme s'il y avait la police tout le temps sur notre dos.
Ouais.
On nous a dit, un espace réservé pour les personnes expulsées. Fait que vous pouvez pas aller acheter à manger ou de quoi. Ils vous donnent à manger sur place. La seule zone d'accès que vous avez, c'est les toilettes. Fait qu'on était juste en salle d'attente à attendre le prochain vol. Il y en a d'autres qui attendaient 2 jours pour prendre le prochain vol et tout. Moi, j'ai juste fait comme 15 heures d'escale au Maroc. Puis mon vol prochain, je l'ai pris pour le Cameroun.
Rose, tu sais, il faut rappeler aux gens là, que tu n'as pas été expulsée du Canada parce que tu as volé ou parce que tu as tué quelqu'un ou tu as écrasé un chien. Tu as été expulsée parce que tu as travaillé trop fort.
Tout à fait. Parce qu'il se peut que entre le temps où j'ai gradué, justement, et le moment où je devais aller demander mon permis post-diplôme, il se peut que je devais pas travailler. Mais vu que moi, j'ai continué à travailler, c'est de là qu'est née ma confusion avec les services d'immigration. Fait que c'est vraiment de ça que c'est parti. Et j'ai été littéralement traitée comme une criminelle.
C'est incroyable.
C'est vraiment incroyable.
Tu étais au Québec depuis juin 2017. Est-ce que tu comptais faire ta vie au Québec, là? Tu comptais rester ici?
Tout à fait. Je comptais rester parce que déjà, pour vous dire, mon avenir, j'avais déjà mon certificat de sélection. Il était question pour moi d'aller chercher ma résidence permanente. Mais vu que je pouvais pas rester sur le territoire avec mon permis d'étudiant, c'est pourquoi je suis allée chercher ce poste diplôme pour me permettre de rester en attendant que ma résidence sorte. C'est que j'ai continué de travailler parce que mon permis d'études, il était valide. Je maîtrisais pas cet aspect-là. Entre le temps où j'ai gradué et le temps où je vais demander, je dois arrêter de travailler, surtout que il nous donne 6 mois après les études pour aller chercher ce permis. Moi, je me suis dit, OK, je vais continuer à travailler parce que j'avais mes petits besoins à moi et tout. Mm-hmm. Mais je savais pas que ça me porterait préjudice plus tard.
Oh, non, tout ça est aberrant. Tout ça est incompréhensible. Là, Rose, t'es retournée au Cameroun?
Tout à fait. Actuellement, je vis chez ma maman.
Oui.
À Ebolova, précisément, ouais. C'est que pour le moment, vraiment, je suis en repos et j'en profite pour prendre soin d'elle vu qu'elle est malade.
Ah oui.
C'est qu'à tout moment, d'ici mars, il va falloir que je quitte pour pouvoir trouver un emploi. Mais il faut noter qu'ici, les opportunités sont très rares parce que, vous savez, le Cameroun, c'est un pays émergent. Et en termes de nouvelles technologies, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il faut vraiment faire des prospections sur le marché et convaincre le monde pour pouvoir avoir des offres de travail ou des partenariats ou quoi que ce soit. C'est vraiment difficile. Et j'ai pensé à me lancer aussi en freelance ou bien être ouverte à des opportunités de travail à distance.
Ouais.
Mais les offres d'emploi que j'ai eues, notamment du Québec et partout ailleurs dans le monde, m'ont fait comprendre que les formations, vu qu'il y a des formations qui se donnent en interne aussi, en entreprise, ça va pas vraiment être possible pour le travail à distance. Donc, je pense beaucoup plus soit à me lancer moi-même, vu que j'ai déjà un background en informatique.
Mm-hmm.
Et puis, c'est vrai que ça va être difficile parce que je suis programmeur junior, mais rien n'est impossible. Je reste vraiment optimiste. Il est question pour moi d'avoir une certaine base
mm-hmm.
pour pouvoir revenir plus forte, plus déterminée.
Es-tu encore en discussion avec Réal Fortin du Bloc québécois? Est-ce que tu prépares un retour au Québec?
Tout à fait. Il est resté en contact avec moi et ma famille. Il continue à me suivre, me mettre en étant à distance. Et puis, ils m'ont donné des pistes pour mon éventuel retour. Fait que tout le temps, on est en contact. Ils me donnent des informations et tout. Pas question. On communique toujours là-dessus. Et mon retour, il est vraiment envisageable. Je compte retourner au Québec après mes 1 an.
Mm-hmm.
De
Ah, faut t'attendre un an. Donc, tu auras quoi, 24 ans?
Ouais, 24-25.
Et si,
je prends mon 24 ans.
Ouais. Et si une entreprise québécoise entend cette entrevue et se dit on va l'engager, nous, Roséva, est-ce que ça peut accélérer ton retour?
Ça peut accélérer mon retour, mais juste après les 1 an. Dans le fond, le but des entrevues, justement, c'était de me maintenir sur le territoire. Parce que j'ai des offres, vraiment, j'en ai eu. Après la médiatisation et tout, j'en ai vraiment eu des offres.
Okay.
Mais point de vue administratif et légal, ils ont fait comprendre, l'avocat nous a fait comprendre que rien n'est possible, qu'il y a l'ascension des 1 an. Et c'est vraiment là que je trouve ça regrettable, parce que c'est le clou dans la plaie en plus.
Mmh.
Parce que non seulement j'ai été expulsée, on m'a encore donné un an de sursis. Fait que tout va être possible juste après ces 1 an-là. Même s'il y a de quoi en ce moment, comme quoi les entreprises veulent me recruter et tout, ce sera juste après les 1 an qu'on va pouvoir lancer les démarches dans ce sens-là.
Bon, mais souhaitons que cette année passe le plus vite possible et que tu te portes bien, Roséva, que ta mère se remette de son problème de santé. Et on souhaite vivement ton retour au Québec, sincèrement.
Moi aussi, j'ai hâte à vous revoir.
Bon,
et
ben.
J'aimerais,
oui?
En parallèle, dire merci parce qu'il y a une marche qui a été initiée samedi 15 février. Donc, je tenais à dire à tous ceux qui ont participé, aux organisateurs, que je suis vraiment reconnaissante et ça me va droit au cœur parce que, une fois de plus, mon histoire a été portée haut et j'ai vu aussi les réformes qu'il y a eu en matière d'immigration pour les permis de post-diplôme pour les étudiants étrangers. Ça prouve que, quelque part, notre combat n'a pas été vain. Fait que je reste positive, je reste forte et déterminée à revenir au Québec car ma famille y est, c'est sûr que ça... Personne ne va me l'arracher. J'ai un sentiment d'appartenance à une communauté.
Bon, tu es très sympathique. Je te souhaite le meilleur, Roséva. Merci de nous avoir parlé et bon courage.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Du Trizac, la première émission de radio à la carte.
Bon, on vient d'entendre Roséva, mais maintenant avec nous, pour faire le suivi, Réal Fortin, qui est député fédéral dans la circonscription de la Rivière-du-Nord pour le Bloc québécois. Monsieur Fortin, bonjour.
Bonjour, M. Dutrisac.
C'est clair que Rose Eva a subi une injustice flagrante, puis qu'elle va devoir patienter une autre année avant de refaire une demande d'immigration au Canada. Où en sommes-nous dans ce dossier-là? Est-ce que ça a évolué?
Bien, ça a évolué dans le sens qu'au au ministère de l'Immigration, ils ont cru bon de revoir les règles applicables. Il y a un changement depuis vendredi dernier qui a été faite, qui fait en sorte qu'à partir du moment où l'étudiant... Parce que, tu sais, pour résumer simplement l'affaire de Rose Eva, elle n'est pas arrivée ici, là, par en arrière, puis illégalement, elle est rentrée par la grande porte avec un permis d'études qui l'autorisait à travailler pendant ses études. Depuis juillet 2017, le permis est en vigueur jusqu'en mars 2020, OK? Elle finit ses études plus tôt, en septembre 2019, et elle continue à travailler parce que, bon, il faut qu'elle vive chez sa sœur.
Ben oui.
Et là, on dit, ben écoute, à partir du moment où tes études étaient terminées, tu n'avais plus de permis pour travailler, il fallait que tu arrêtes de travailler. C'est une subtilité qui, entre vous et moi, là, lui a échappé et aurait échappé à 99% des étudiants, sinon davantage, là, à l'impermis là, écrit qui dit tu as le droit de travailler. Fait qu'en tout cas, à tout événement...
Mais avant de pas... Elle ne vendait pas de la drogue, là?
Non, c'est ça. Puis elle payait ses impôts, là. Elle travaillait dans une boutique de vêtements. Dieu sait que dans une boutique de vêtements, là, tu ne travailles pas à 30$ de l'heure, là, mais en tout cas,
non.
Elle payait ses impôts, toi. Et ceci dit, donc, le ministre a cru bon de revoir les règles vendredi dernier en disant, bien, dorénavant, quelqu'un qui dépose une demande de permis de travail post-diplôme peut continuer à travailler en attendant d'avoir le fameux permis de travail, puisqu'on considère que, bon, c'est une espèce de continuité entre ses études et son éventuel permis de travail. Les règles ont été revues vendredi dernier. Il n'y a pas de petit laïus qui vient avec les règles pour dire « Ah, compte tenu de l'erreur qu'on a faite dans le dossier des Barros, voici les nouvelles règles, mais mettons qu'entre vous et moi, là, ça ressemble à ça en tabarouette, là.
Ouais. » Moi, donc, c'est pas... C'est pas rétroactif, là.
Non, c'est pas rétroactif, mais je pense que le ministre devrait, dans un cas comme celui-là, utiliser son pouvoir discrétionnaire et dire, écoute, là, on va la faire revenir, cette jeune fille-là, on va lui émettre son permis de séjour temporaire, elle voulait faire sa demande pour être résidente permanente, elle peut suivre le processus. Écoutez, on dépense des millions pour aller chercher du monde ailleurs, leur dire, écoutez, on a une pénurie de main-d'œuvre, venez donc travailler chez nous, ça va être le fun, vous allez voir, on lui montre des films, des photos, puis on lui fait des beaux discours. Là, on a une qui s'en vient, là, elle s'en vient pas sur le BS ou, comme vous dites, vendre de la drogue c'est un coin de rue, là. Elle s'en vient, elle étudie, la fille, elle a un diplôme en finance du Cameroun, elle vient de sortir un diplôme de chez Tekar, là, l'automne dernier, donc en informatique. Les gens, elle a reçu, je me souviens plus des chiffres, une trentaine ou à peu près d'offres d'emploi, d'employeurs du Québec qui ont besoin d'elle. Elle parle français, elle est installée ici dans la région, dans ma circonscription, la plus belle au Québec en passant, à Saint-Jérôme. Écoutez, ouais. Moi, je me dis que le ministre devrait, dans un cas comme ça, pour dire, écoutez, là, on va arrêter de jouer au fou, là, je comprends que sur le plan strictement là, légal, il y avait un problème, elle n'avait plus le droit de travailler. Mais si on veut être le moindrement efficace, peut pas avoir l'air d'une gang de tatas sur la scène mondiale, là, ouais, pour peut-être, à un moment donné, dire, bon, il y a un pouvoir discrétionnaire, dans quel cas on peut s'en servir? Moi, je pense que ça, c'est un beau cas pour s'en servir. Rose Eva est prête à s'en revenir, elle est intégrée ici, elle a une place où habiter, elle a des jobs, elle parle français. Il est où le problème, là?
C'est ridicule. Ça, là, vous parlez...
Quel message on envoie, tu sais, par ailleurs? En même temps qu'on dépense de l'argent pour convaincre les autres de s'en venir chez nous, quelle image on leur donne de notre chez nous? Pas sûr que c'est productif, cette affaire-là.
Vous parlez du ministre. Écoutez, ça m'a pris du temps avant de trouver le nom du ministre de l'immigration au fédéral. Ouais. C'est Marco Mendicino. C'est moi qui dois être lent. Lui avez-vous parlé à M. Mendicino, là?
On s'est écrit, là. Je l'ai sensibilisé à cette affaire-là en lui demandant d'intervenir, mais les réponses qu'on a eues, vous l'avez vu, là, c'est qu'ils ont décidé de pas changer la décision, puis ils ont renvoyé Rose Eva chez elle au Cameroun.
La bureaucratie à son meilleur. Hein? Mais c'est de la bureaucratie à son meilleur, ça.
Ben oui. Tu sais, c'est assez terrible. Tu sais, si on me disait, écoute, elle doit y retourner parce que c'est une dangereuse criminelle ou elle a commis un geste terrible, genre vendre de la drogue à des mineurs, faut qu'elle apprenne qu'au Canada, ça se fait pas. Ou tu sais, quelque chose de même, bon.
Non, on les garde.
Je peux comprendre. Mais là, c'est pas ça, là. Elle a mal interprété. Puis comme je vous dis encore une fois, là, elle a un permis, là. Je peux vous l'envoyer si vous voulez, là. Noir sur blanc, c'est écrit, là. Elle est aux études, c'est valide jusqu'au 31 mars qui vient, 2020. Et c'est écrit qu'elle peut travailler durant ce, pendant ce temps-là, là.
Alors, c'est vraiment
ridicule. La subtilité, puis je nie pas la subtilité, là. Il y en a une. Je comprends que dans les règlements, là, ça dit que si tu arrêtes les études, il n'y a rien qui te permet de continuer à travailler. C'est vrai que si on lit les règlements puis qu'on les interprète, selon moi, correctement, c'est ce que ça disait. Mais là, tu sais, moi,
elle demandait pas,
elle a parlé chez elle. Écoutez.
Mais oui, elle demandait pas l'aide sociale, elle demandait rien, elle voulait, elle travaillait. C'est vraiment des critères complètement débiles, là. Heureusement, ça a été modifié. Là, il reste à Marco Mendicino de s'activer un peu, puis de peut-être tendre la main, puis faire une exception dans le cas de Rose Eva, parce que vraiment, elle ne mérite pas le sort qu'on lui a réservé.
Non, puis je dirais, non seulement elle ne le mérite pas, mais nous méritons Rose Eva, et nous devrions nous offrir ce privilège-là d'avoir cette jeune dame-là qui vient avec nous travailler, être un actif important dans notre société.
Super. On se laisse là-dessus, M. Fortin. Merci d'avoir précisé tout ça pour nous.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte. La croissance de leur entreprise.
Parlez à Benoît Dutrisac par texto. 187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Crime et justice.
Félix Séguin est avec nous, il est journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Félix, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, il y a un paquet de dossiers qui sont suspendus à la cour municipale?
Oui, qui risquent de priver la ville de millions de dollars en revenus. Et tout ça à cause d'un jugement de la cour municipale. C'est la journaliste Kathleen Lévesque qui a publié cette information-là. Ça pourrait faire tomber 26 000 dossiers, donc 26 000 amendes ou poursuites en cour municipale en vertu des règlements municipaux, entre autres. Pourquoi ça se passe tout ça? Pourquoi, c'est quoi le déclencheur de la situation? Ça passe par une juge qui s'appelle Lynn Charret, qui est juge où? Évidemment, à la cour municipale. En décembre 2018, elle a invoqué l'arrêt Jordan pour l'arrêt du processus judiciaire. L'arrêt Jordan, on sait c'est quoi maintenant. C'est un arrêt qui est stipulé par la Cour suprême du Canada sur les délais déraisonnables qu'avait la justice. Maintenant, quand ça prend trop de temps à être jugé, ben, ce qu'on dit à la Cour, aux tribunaux inférieurs, c'est que vous devez laisser tomber les accusations si on n'est pas jugé dans un temps raisonnable. Bon, alors, la juge Charest s'est servie de ça pour une contravention donnée à un Montréalais qui avait déposé son recyclage sur le trottoir en dehors des heures permises. Je le dis avec le sourire dans la voix, parce que je dis, c'est quand même une tout petite infraction, mais qui risque de faire tomber, qui risque d'en faire tomber beaucoup d'autres, tu vois. Alors, quand je te dis beaucoup d'autres, les dossiers suspendus, ce sont tous des dossiers qui concernent des règlements municipaux, sauf l'étiquette de stationnement, puis ceux qui sont relatifs à la circulation. Mais, tu sais, exemple, je te donne un exemple concret de ce que ça pourrait faire. Disons que tu es ivre sur la voie publique. La police peut t'arrêter. Tu sais, tu te rappelles sûrement la dernière fois que ça t'est arrivé.
Non.
Alors, moi non plus. Elle avait arrêté.
Il n'y a pas un soir où toi ou moi, Saint-Lambert. En tout cas, laisse faire.
Alors, c'est ça. À ce moment-là, c'est des policiers qui te donnent une contravention. Mais c'est pas en lien avec le code criminel. C'est un règlement municipal. Quand tu troubles la paix. Tu dors dans un parc après l'heure de fermeture. Règlement municipal aussi. Plainte de bruit. Bon, règlement municipal. Alors, tout ça, ça va permettre, disons, ça va permettre aux gens de probablement voir leur infraction laissée de côté. Par contre, la Ville de Montréal va demander à la Cour d'appel là, de se prononcer là-dessus parce que c'est une question judiciaire. C'est vraiment c'est une question financière, plutôt.
Ouais.
Une question financière. 26 000 dossiers, puis des amendes en règlement municipal. C'est pas élevé, mais des fois, c'est plusieurs centaines de dollars quand même. Mmh. Alors voilà, on va essayer d'aller récupérer ça, parce que là, tu sais, on dit souvent que les policiers le disent, eux, particulièrement, que le règlement municipal, c'est beaucoup plus un règlement fait pour un percepteur d'impôts déguisés que pour le bien commun. C'est sûr que s'il y a une problématique, exemple, que tout le monde, que 1000 personnes dorment dans les parcs de Montréal à chaque soir, il va y avoir une intervention de la police, puis une vigie, puis probablement que ça va s'amenuiser au fil des temps, parce qu'il y aura des interventions policières, des règlements municipaux, mais c'est pas un cas d'espèce, ça se passe pas souvent, tu comprends? C'est pour ça qu'ils disent que c'est souvent une question de perception d'impôts déguisés par des contraventions en vertu du règlement municipal que l'inverse. Alors, la Ville de Montréal ne veut pas du tout que ça arrive. Tu comprends? Elle veut ses 26 000 tickets.
Je comprends ça. Il va y avoir un trou dans le budget si elle les a pas. Un mot à propos d'Yvon Michel?
Oui, il faut en parler. C'est important, hein, ce qui se passe avec Yvon Michel, puis sa comparution devant la régie des alcools, des courses et des jeux. Ce qu'on voit, c'est que M. Michel a commencé à faire du PR un peu. Rappelons là qu'il est devant la régie parce que il y a plusieurs choses louches qui sont attribuées à son organisation, qui est Jim Group Yvon Michel, le promoteur de boxe. On croit que les Hells Angels se tiennent un peu trop souvent au combat, mais bénéficient des largesses du groupe Yvon Michel. C'est sûr que les Hells Angels sont à presque tous les combats de boxe à Montréal. L'affaire est de savoir si ils y sont, puis ils profitent, exemple, des places près du ring données par Yvon Michel. La police avait observé 6 Hells Angels assis, comme on dit, dans le périmètre de ça, à l'intérieur du périmètre de sécurité au gala du 20 septembre 2019 au centre Pierre Charbonneau. Il est devant la régie pour ça, mais aussi il y avait des soupçons concernant certains galas qui auraient pu être organisés par des prête-noms, donc qu'il y aurait quelqu'un qui finance un gala de boxe qui n'est pas Yvon Michel, qui doit être le répondant devant la régie des loteries, courses et jeux. Alors, il a commencé à faire un peu de PR et dire qu'il s'attend à ce que la régie soit pas courtoise avec lui, mais il dit, si je suis reconnu coupable, ça va beaucoup ébranler ma confiance dans la régie des alcools, courses et jeux, avec qui je suis partenaire depuis longtemps, tu vois. Alors voilà qui est dit, on attendra la décision.
OK. Et avant qu'on se quitte, Félix, un mot sur ce balado du bureau d'enquête?
C'est vraiment bon. Il faut absolument aller regarder ça, écouter ça plutôt. Le Casanova de Montréal, c'est le balado qui a été réalisé par ma collègue Brigitte Noël. Et puis, ça se porte sur les pratiques d'un homme que l'on décrit comme un Casanova, qui s'appelle Sheldon Ludwig, et donc un gars du West Island, de l'ouest de l'île de Montréal. Beau bonhomme, on décrit charismatique, yeux bleus, et qui a multiplié, disons, les conquêtes amoureuses au cours des dernières années. Sauf que ce qu'on comprend, de la manière dont Brigitte Noël raconte cette histoire-là, bien appuyée en passant avec des audios très, très intéressants et des bonnes entrevues, c'est qu'il tente de flouer les femmes avec qui il couche. Donc, il entre en relation pour un but et un but très simple, c'est tenter d'en retirer un avantage financier. La cour l'a même condamné à rembourser 600 000 $ au cours des dernières années à deux ex. Puis ça, c'est de l'argent qui a été soutiré. Alors, il y a ça, c'est un homme qui se décrit coach aussi, coach en dépendance, un peu frimeur, tu vois. Puis Brigitte Noël, il consacre déjà de 5 épisodes. Ça s'écoute vraiment très bien. C'est Anne-Sophie Charpentier à Cube qui l'a réalisé. Elle a super bien réalisé ça. Puis c'est une promo que je fais au fond parce que on a la chance de pouvoir faire des balados d'enquête. Et puis c'est plus compliqué que ça n'y paraît, faire des balados d'enquête. Et ça c'est beaucoup d'investissement que d'en faire, parce que c'est beaucoup de temps. C'est pas si simple. Enfin, c'est pas juste te mettre devant le micro puis avoir un ton qui est un peu plus populaire que si tu parlais sur à l'antenne d'une radio normale. Non, c'est très fouillé, puis c'est très rigoureux, puis c'est bravo. Alors, il faut aller l'écouter, si possible.
C'est noté, Monsieur Séguin, de votre commandation balado de Brigitte Noël. Parfait. Merci, Félix. À demain.
Actualité.
Alexandre Dubé.
On souligne l'anniversaire d'un triste fiasco ce matin. Ça fait 4 ans que le système de paie Phoenix donne des maux de tête à des milliers de fonctionnaires fédéraux. Et encore aujourd'hui, là, imaginez, il y a des fonctionnaires qui doivent composer avec des erreurs régulières, que ce soit carrément une absence de paie, de mauvais montants versés, des erreurs dans les congés de maladie, des congés de maternité. Bref, c'est encore une fois vraiment tout un casse-tête pour eux, les erreurs qui se comptent par milliers. Et là, est-ce qu'on se dirige vers de meilleurs jours? Ben, il y a le processus d'appel d'offres pour un nouveau logiciel qui est en cours. Par contre, avant de se lancer dans cette aventure-là, il faudra corriger toutes les erreurs de Phoenix. Et quel impact ça aura? Ben oui, ça coûtera encore plus cher un fiasco qui a déjà coûté des millions et des millions de dollars aux contribuables.
Culture et société.
Anaïs Gertin-Lacroix est avec nous pour sa chronique culturelle. Anaïs, bonjour.
Allô?
Ashkong!
Écoute, hein?
Alors? une petite chronique sur les nazis?
Je peux même pas croire que tu commences comme ça. Hey, oui, en fait, je veux qu'on parle aujourd'hui d'entreprises qui ont collaboré de près avec...
Tu sais qu'ils toujours leur cigarette à l'envers comme ça.
C'est vrai qu'on nazis. Voit ça dans les films, entre autres, dans les...
Vous allez avouer, Mme Gertin-Lacroix!
C'est terrible que tu ris de ça de même, Benoît Dutrisac.
Ben oui, c'est oui. Avec le recul.
Ben c'est ça qui se passe. Ben, y a plusieurs compagnies avec le recul qui sont sorties, notamment en 2011, pour s'excuser d'avoir collaboré de près avec les nazis. Certaines compagnies qui... Oui, il est tard, mais vaut mieux tard que jamais. Ben, et des produits qu'on consomme encore en ce jour, comme Hugo Boss. Et là, allez voir l'image des habits, je veux dire... Visuellement, c'est magnifique, c'est taillé,
l'uniforme
c'est droit, l'uniforme des nazis. Donc, Hugo Boss a été créé en 1924. Et à ce jour, dites-vous qu'un habit sur 6 vendu dans le monde signé Hugo Boss. Alors, c'est produit en 1929, 1930. Ouais, c'est vraiment, je veux dire, c'est Hugo Boss en termes d'habits et
j'pense
de
combinés. J'en ai un, là.
Mais 3/4 des hommes, je pense, ont un Hugo Boss ou vont en avoir un dans leur vie. C'est quand même 1/6. Et en 1929-30, il y a une grosse crise financière. Donc, Hugo Boss était rendu à 25 employés. Et en 1931, Hugo Boss est devenu officiellement un des membres bienfaiteurs des SS, qui était une des principales organisations des nazis. C'est important. Oui, c'est important de le mentionner. Là.
Ça, c'est le manteau en cuir et tout ça?
Tout ça.
Wow.
Tout ça. Et les habits.
Mais visuellement, là,
ça
c'était,
fait peur.
C'était des crapules. Là. C'était des monstres. Mais visuellement, là, moi, j'ai lu plein d'affaires sur le Troisième Reich. Puis tout le style... tu sais, des vêtements, là, toute l'architecture aussi du Troisième Reich, c'est quelque chose d'extraordinaire.
On regarde ça, là, les lignes sont droites, ceinture.
Mais méprisant.
Oui, non, je ne suis pas en train de défendre, mais en soi, faut donner ça à Hugo Boss et c'est devenu ce qu'on appelle le tailleur d'Hitler. Écoutez, à la fin 1944, je vous rappelle qu'aux alentours de 1930, il y avait 25 employés. Il est passé à 324 employés, ce qui est énorme. Et durant, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, Hugo Boss a forcé 140 ouvriers à fabriquer les uniformes, beaucoup de femmes, une quarantaine de prisonniers de guerre. Et justement, en 2011, pour la première fois, la maison Hugo Boss sortait dans les médias pour s'excuser d'avoir contribué comme ça et d'avoir fait les habits d'Hitler, qui est quand même...
Mais tu te demandes, tu sais aussi, t'es en Allemagne, mais est-ce qu'il était en Allemagne, Hugo Boss? Mais tu sais, si t'es en Allemagne, et là, c'est le parti nazi qui a pris le pouvoir, puis quand il apporte, puis il dit « tu vas nous dessiner des uniformes », T'as-tu le choix?
Et il y avait eu une crise financière, une crise économique pas longtemps avant. Donc, c'était soit ça ou la faillite. Donc, il s'est associé aux nazis pour éviter une faillite, mais ça reste encore
ça
à
reste
ce jour
nazis.
Qu'il a collaboré avec les nazis.
C'est plus aussi... chic que l'État islamique, quand même.
Un peu plus cintré.
Mais entre psychopathe, là?
Oui, en tant qu'affaire, j'irais pour les nazis.
Psychopathe chic.
Un psychopathe chic. On a aussi, sinon, la famille Kent, BMW, pendant de nombreuses années, la famille derrière BMW disait avoir été victime des nazis et on s'est rendu compte plusieurs années plus tard, en 2011 aussi. Donc, il y a vraiment une grosse étude qui a été faite qui faisait littéralement partie du régime nazi. Et Günther Kent, j'espère que je le dis bien, on dit vraiment de lui que c'est un entrepreneur sans scrupules. Et dites-vous que BMW a exploité exploiter parfois jusqu'à la mort 50 000 travailleurs, des prisonniers de guerre, des camps de des gens qui sortaient de camps de concentration. Les gens derrière BMW également ont chapeauté la construction d'un camp de concentration à Sagan. Donc c'est vraiment là, je veux dire, cette compagnie-là a travaillé de près avec les nazis et eux depuis 2011 aussi participent avec 11 groupes allemands à un fonds d'indemnisation pour les victimes de travail forcé sous le nazisme en raison justement de cette collaboration-là durant la Deuxième Guerre mondiale. Y a-t-il quelque chose de moins apeurant que des cookies, que des biscuits? C'est vulnérable, y a rien.
Ben non, c'est des...
Ben la famille Haute-Care, on sait ce que c'est, les fameux biscuits. C'est quoi, là, ce mélange la famille Haute-Care, on en voit encore.
Ils font pas des pizzas aussi?
Ben maintenant, ils font un peu de tout, mais à la base, là, c'était des petits gâteaux, donc le mélange de farine. Donc, c'est des petits gâteaux. Et ça, ça a été créé en 1891. Docteur Auguste Haute-Care avait un garçon, Rudolf, qui, lui, était officier au camp de concentration. Et pendant plusieurs années, de 1933 à 1945, quand on entrait au siège social en Allemagne toujours, il y avait une immense affiche de Hitler. Et c'est Docteur Haute-Care qui nourrissait le Troisième Reich. De petits gâteaux, entre autres. Donc, encore là, il y a une méga collaboration entre les deux. Donc, maintenant, quand on va à l'épicerie, vous voyez, là, moi, j'en consomme
c'est
des docteurs Haute-Care à voir à quel point.
Ah, oui.
Je veux dire, à l'époque, il y avait une collaboration entre eux. Et ben, je termine, ça va de soi. Volkswagen, qui a été créé par Hitler en 1937. Pendant 3 ans, on voulait que Volkswagen crée 24 véhicules par mois. Donc, il y a eu des avions, il y a eu des munitions, mais il y a aussi eu la fameuse Beetle. Et moi, c'est ce que je trouve le plus particulier parce qu'à la base, on voulait que ce soit une voiture pour les Allemands familiales. La Beetle, on voulait que ce soit rond pour que ça donne envie de que ce soit réconfortant. Et quand on regarde plus tard, la Beetle, qui pendant un certain temps était associée au nazisme, est devenue l'image, la contre-culture dans les années Peace and Love. Tu sais, de voir que la même voiture a eu vraiment deux vies complètement différentes.
Ouais.
Et en 2013, le constructeur allemand consacrait 1 million d'euros à la préservation de la mémoire d'Auschwitz en raison justement de cette collaboration-là, encore une fois, avec les nazis. Donc là, j'ai choisi des compagnies qui sont connues à l'international, mais quand on fait des recherches, là, c'est incroyable de voir en Allemagne, encore à ce jour, des compagnies qui se sont littéralement enrichies lors de la Deuxième Guerre mondiale en créant des munitions et en utilisant des gens jusqu'à leur mort.
Tu sais, quand j'étais petit, c'était ça mon cauchemar récurrent.
C'était quoi?
Je courais les pieds comme dans la mélasse, puis il y avait lui qui me courait après. En fait, lui, là. J'ai dû voir ça dans un film en noir et blanc. Puis là, t'avais le nazi dans son imperméable en cuir qui me poursuivait. Je me souviens de ce cauchemar-là qui revenait de temps en temps.
C'est ça. Après, merci de partager ça avec moi. C'est moi qui vais rêver à ça maintenant. OK, bye.
Merci à vous.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Du Trisac.
Du Trisac est aussi sur mesure. Choisissez votre liste de lecture en sélectionnant vos sujets préférés, puis placez-les dans l'ordre d'écoute que vous désirez.
Rendez-vous sur l'application Cube Radio pour réaliser votre émission.
Cube Radio. Cube Radio. Femme de tête.
Caroline Saint-Hilaire est avec nous. Elle est notre analyste sociopolitique, culturelle, puis mettez-en. Madame Saint-Hilaire, bonjour.
Bonjour, autre tâche connexe.
Je comprends, là c'est les Jeux olympiques, toi chose, là. Il n'y a rien qui t'arrête.
Il n'y a rien qui m'arrête, Benoît. Mais en fait, c'est les Jeux olympiques. Écoute, je ne sais pas si tu sens la panique prendre tout son ampleur au Québec, dans le monde entier, le coronavirus. Je ne sais pas si tu es équipé, pas juste de pelles, mais de masques. Est-ce que tu sens que le coronavirus va t'attaquer, Benoît, incessamment sous peu?
Ben, je l'ai eu. J'avais ça la semaine passée, là, c'est pour ça que je me suis absenté. Mais je l'ai combattu et j'ai gagné.
Et bravo.
Merci.
Bravo. Écoute, tu nous diras comment faire. Mais blague à part, oui, parce qu'en fait, il y avait des discussions, parce qu'on sait que cet été auront lieu les Jeux olympiques à Tokyo, au Japon. je pense que c'est quoi, c'est en juillet, là, du 24 juillet au 9 août. Et là, bon, il y avait Richard Pound qui a émis, qui a suggéré en fait la possibilité que peut-être on devrait suspendre ou même annuler les Jeux olympiques compte tenu de la crise avec le coronavirus. Et là, ben, tu comprends que les gens au Japon ont posé la question au comité organisateur, au comité olympique en disant, écoutez, là, si vous avez l'intention d'annuler les Jeux, dites-nous-les, là, parce que tu comprends qu'il y a bien du monde qui travaille pour préparer les infrastructures, pour préparer l'arrivée de tous les athlètes au niveau mondial. Et là, on est quoi? On est à quelques mois. Et là, il y a eu le premier ministre, même japonais, qui a dit, ça n'a pas de bon sens. Je vous invite à vous calmer un peu. Mais en même temps, je me disais, la question quand même mérite d'être soulevée, à savoir, est-ce que on mobilise tous les pays cet été pour envoyer nos athlètes à performer dans le cadre de disciplines sportives
avec des masques.
Ben voilà, moi je me disais, je comprends la journée que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va dire que oui, maintenant, nous déclarons que c'est une pandémie et que maintenant, on pose des gestes différents. Tant qu'on n'est pas rendu là, moi, je pense qu'il faut continuer d'avancer. Il faut continuer de vivre comme on vivait. On ferme pas les frontières, hein, donc on continue de voyager. Il y a personne qui a dit qu'il fallait arrêter de voyager. Peut-être qu'on peut continuer de faire, oui, ces Jeux olympiques-là, en même temps, en gardant toujours la fenêtre ouverte de dire, ben ça se peut que oui, certains pays ne participent pas, ça se peut que les effectifs soient diminués aussi, mais est-ce qu'on arrête tous de vivre? Moi, je suis pas rendue là, honnêtement. En même temps, est-ce que d'ici les Jeux olympiques, on sera mieux outillés? Est-ce qu'il n'y a pas des virus qui sont aussi dommageables que le coronavirus, puis que dans le fond, on se pose jamais la question? Là, le problème, c'est que ça touche, effectivement, comme tu dis, plus qu'un pays. Donc, on peut se dire, ben peut-être que là, on augmente le coefficient de risque. Mais en même temps, est-ce qu'on est en train, puis je nous inclus, Benoît, là-dedans. T'sais, on le sait, là, ça fait de la bonne télé, ça fait de la bonne nouvelle, mais est-ce qu'on n'est pas en train de grossir cette histoire-là du coronavirus? Et même, je te dirais même plus que ça, Benoît, maintenant, on n'est pas en train de faire peur au monde. Écoute, moi, je ne sais pas pour tes parents, je ne sais pas s'ils sont encore vivants ou quoi que ce soit, là, mais écoute, j'entends les personnes âgées, on est sur le bord de la panique, là, puis il n'y a pas encore un cas au Québec, on va se le dire, là. Mais il y a comme une notion de panique. Je dis pas qu'il faut fermer les yeux, puis loin de moi de cette idée-là, puis je dis pas qu'il faut pas informer la population. Mais je parlais même avec Régent Thomas, écoute, le sida tue plus de monde, puis on n'en parle pas tant que ça. C'est sûr que là, il y a l'effet de nouveauté, il y a l'effet que il y a pas de vaccin, il y a pas de médicament pour contrer le coronavirus, il y a l'effet que, bon, on peut croiser quelqu'un dans la rue et se faire contaminer d'une certaine façon, mais en même temps, tu sais, je me dis, OK, je pense qu'il faut qu'on calme un peu cette notion de panique-là. En tout cas, moi, j'ai pas tendance à paniquer, là, mais je pense que cette réflexion-là sur les Jeux olympiques me fait dire que, OK, je pense qu'on est dans un mouvement de panique généralisée, pas juste au Québec, pas juste au Canada, partout. Il y a des endroits, je comprends, là.
T'es en Asie, t'es dans le à côté du premier foyer. L'Iran est un deuxième foyer. On parle de beaucoup de milliers de personnes là, qui se rassemblent dans un lieu de fermé, un lieu. Moi, je pense que la question se pose là, pour l'instant.
Ah, oui, ben c'est ça, exact. Mais c'est ça que je te dis. La question se pose et je pense qu'il faut que le comité olympique se garde cette latitude-là de dire, OK, advenant qu'au Japon la crise prenne de l'ampleur et qu'on soit pas capable de d'y faire face, qu'on soit pas capable de contrôler, ben oui, à la limite, oui, on est mieux d'annuler que plutôt de risquer de contaminer d'autres personnes ou que ça devienne explosif. Mais t'sais, ce que je me dis, c'est que oui, pensons, posons la question et je comprends qu'on se la pose, mais en même temps, ce que je te dis, c'est que je nous trouve collectivement presque au bord de la panique et ça m'amène même sur mon deuxième sujet. Je voyais la nouvelle où on disait que dans le milieu de la santé, on demandait aux gens qui sont en contact avec des gens potentiellement atteints du coronavirus à ne plus porter la barbe dans le réseau de la santé. Là, je me dis, OK, on panique vraiment. Puis, je te dirais, Benoît, j'ai presque envie de te dire comment ça se fait que les gens dans la santé portent la barbe, parce que c'est pas juste une question de coronavirus. Il y en a d'autres virus qui peuvent s'attraper techniquement avec la barbe, avec le contact ou quoi que ce soit. Mais c'est comme si, écoute, j'ai l'impression que c'est comme un prétexte pour grossir quelque chose. Je veux dire, il y en a plein de d'épidémies constantes dans les hôpitaux. Je connais pas tous les noms de maladies puis tout ça, mais ça arrive que tu sais, le colis ou quoi que ce soit, comment ça se fait que les gens dans la santé peuvent porter la barbe? Là, je me disais, en fait, ces deux nouvelles-là, tu dis, OK, là, tout devient un prétexte pour soit faire peur aux gens. Parce qu'il y a un degré d'information, moi, je pense, qui est légitime, Benoît. Il y a un degré de réflexion, à savoir, est-ce qu'on tient les Jeux olympiques? Est-ce qu'on les tient pas? Oui, parfait, c'est des décisions intelligentes qu'il faut se poser, des réflexions intelligentes qu'il faut que les gens se posent. Mais là, tu dis, OK, dans le milieu de la santé, ça veut dire qu'il y a des gens qui portent la barbe et qui voient pas de problème, mais que pour le coronavirus, et là, savez-vous quoi? Il y a une consigne qui est donnée au milieu de la santé. Ce serait mieux que vous portiez pas la barbe. Mais, comment ça se fait que techniquement, on n'est pas outillé mieux que ça pour nos gens qui travaillent dans la santé et qui décident de porter la barbe pour x, y raison?
Respecter le poil, Mme Saint-Hilaire, respecter le poil. Mais je pense que oui, c'est important. Quand tu es un adulte, tu en as. C'est ça la vie. Bon, ben c'est tout. On s'arrête là-dessus. Merci, à demain.
Un poil sur le bout de la langue.
Du Trisac. De 6 à 8. Du Trisac.
Avec Benoît Du Trisac. Cube Radio.
Oh, bienvenue à cette deuxième heure. Maudit qu'on est à bout, là. La tempête s'en vient.
Oui.
Là, il pleut, hein?
Alexandre? Oui, c'est une tempête de pluie, là. à Montréal.
Tempête de pluie. là, les Mohawks qui mettent le feu près des rails, les prix Nobel.
Ça va bien.
Ça va bien. Mario s'en vient. Il doit être pris quelque part dans la tempête de pluie. 10 à 15 cm de pluie, ça n'en aura pas. Toi, tu feras plus de ski le restant de l'année.
Ah, non, mais dans le nord, heureusement, ça va tomber en neige. Là.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Là, il va falloir les accueillir dans des centres d'aide là, pour.
Non, on est habitué dans le nord, arrête-moi ça.
C'est vrai?
Ben ah, oui. Hey. Ah,
ouais. Mets ton casque de poil, il y en a qui mettent des casques de plumes. Puis. Moi, je t'aboute, là. Je t'aboute. De cette affaire-là, là, de 22 jours...
Ben oui, je te sens irrité ce matin, Benoît.
Un peu aboute. Mm. Un peu tanné d'être avec des adolescents à Ottawa qui sont prêts de prendre leur décision. En passant, Paul Laurier va être avec nous, qui est anciennement de la Sûreté du Québec, qui a géré ça, lui, l'information sur les réserves et savoir est-ce que c'est vrai qu'il y a des AK-47 sur les réserves, et s'il y en a chez les Autochtones. Est-ce que Mario est là? Oui. Ah, Mario, bonjour.
Bonjour. Hey, Mario, depuis tout à l'heure.
OK, je pensais pas. Parfait. J'ai eu une idée.
Oui.
Tu sais que je suis là pour aider. Hein.
Oui.
Tu le sais. Alors, moi, là, si j'étais François Legault et j'appellerais Justin Trudeau, puis je lui dirais, je l'ai la personne pour négocier le problème.
Ah oui?
Ouais. Puis dis-moi ce que t'en penses. Mais moi, j'enverrais Marie-Claude Barrette régler ça.
Ah oui, OK.
Je dirais, là,
c'est pas sûr qu'elle veut le mandat.
Ça me dérange pas. Elle va le prendre pareil. Puis là, tu dis, là, tu vas asseoir tout le monde, là, puis tu vas. Est capable de faire ça à deux filles le matin? Qu'elle les invite.
On jase, là.
Qu'elle les invite à deux filles le matin, autour de la table, pour régler ça.
Videz-vous le cœur, on jase, on dit tout ce qu'on a à dire, mais après moi, c'est dans cet état d'esprit, qu'était M. Legault hier. Là, il se sentait à deux filles le matin, puis il disait tout ce qu'il avait. Il disait tout ce qu'il avait sur le cœur, tout ce qu'il avait en tête en parlant des AK-47.
Ben oui, ben regarde, ça fait avancer le dossier.
Ouais,
ou non?
À un certain point, on l'espère.
En tout cas, je passe le. Pense-y le mot.
OK.
Demande-lui si ça l'intéresse. Okay. Si elle te lance quelque chose par la tête, on aura le message. Ça va être réglé. C'est pas son genre de lancer des choses, d'ailleurs.
Non,
c'est une excellente femme. Mais elle serait capable de gérer ça, elle, Marie-Claude, non?
Oui, mais là, pense-y, hier, c'est quand même gros.
Sors de ton cœur d'époux amoureux. Là.
Oui.
Regarde-la comme on la voit. Là. Moi, je pense que c'est la femme parfaite pour aller négocier ça, ce conflit-là. Oui.
Parce que là, hier, le gouvernement se fait quand même annuler des rencontres. Mais parce qu'il faut quand même replacer les choses. Je comprends qu'on dit, tu sais...
Ça n'a pas de sens.
Je comprends qu'on dit que c'est une nation, la nation Wet'suwet'en. Je veux pas minimiser ces mots-là. Mais c'est quand même 3000 personnes, là.
3006.
Ouais, au Québec, là, ouais. Le maire d'un village de 3000 personnes, là, je souhaite bonne chance s'il veut rencontrer le premier ministre, même un ministre. Là, comment il passe par son député, puis ça va être correct, là.
De même craquer une allumette sur le bord des voies ferrées du CN, sans que la police du CN débarque. Là, ils ont mis le feu après des palettes. Alexandre, juste une mise à jour de la situation, bon, s'il te plaît.
Regardons ça, un survol, là. 22e jour de blocus, Mario y faisait référence. Il y aura finalement cette rencontre-là entre les chefs héréditaires de Wet'suwet'en et Ottawa. Ça doit avoir lieu cet après-midi. Bon, parallèlement
mais
à
excuse-moi, mais qui d'Ottawa? Est-ce que le popotin premier ministrable
oui, se rend? Comme ce que M. Blanchet avait dit.
Ouais. Est-ce que c'est lui ou pas? On ne sait pas, hein? On ne sait pas.
Ouais.
On ne sait pas. C'est-tu Marc Miller? C'est-tu Marc Garneau? Marc Garneau, il disait, Bennett, il va manquer de la... Ouais. Mais Marc, t'es ministre des Transports. Mm-hmm. Allume. Prends-toi un café caféiné, là, voir ce que ça va donner.
Mais il s'est choqué quand même hier, M. Garneau, concernant Belleville, là, concernant l'incendie qui avait été allumé près des trains. Parallèlement à tout ça, c'est clair qu'aujourd'hui, on va surveiller. Est-ce que cette tension-là va être aussi élevée du côté de Kanawaga à la suite, bon, de la déclaration de M. Legault par rapport au AK-47? Parce que là, à la suite de tout ça, il y a la communauté Mohawk qui est sortie en disant que c'était, bon, choquant, une telle déclaration.
Ben oui.
Les Peacekeepers aussi, qui font absolument rien... Ouais, dans ce dossier-là, jusqu'à maintenant.
Ils sont pris à pas faire grand-chose, les autres. Hein?
On qualifiait ça, cette déclaration-là, de dangereuse et d'irresponsable. Alors là, quel impact ça aura aujourd'hui?
Es-tu d'accord, Mario?
D'accord avec quoi exactement?
Est-ce
là?
Que c'est dangereux et irresponsable de dire il y a des AK-47?
Non, de l'avoir dit, là, c'est ça. Ben, c'est étonnant. À première vue, c'était ma première réaction là, de dire « Ouais, ça devait pas être dit. » Puis c'est sûr que ça devait pas être dit. Puis c'est sûr que M. Legault, quand on lui a donné cette probablement une information de ce genre-là dans un briefing d'ensemble, je pense pas que les autorités policières, c'était pour être dit. Fait que, tu sais, mon premier réflexe, c'était très négatif. Puis après coup, tu te dis... D'abord, là, il va falloir s'habituer. Hein? Il y a un style, François Legault. Là, une sorte de candeur, une sorte de... Pour le meilleur et pour le pire, là, mais de dire, ben, voilà ce que c'est, puis c'est ça qui est ça, puis on va le dire au monde, puis... dans ce cas-ci, tu sais, je me dis, bah... D'abord, je pense que je peux te le redire ce matin, là, je te l'ai dit assez clairement hier, puis avant hier, il y aura pas d'intervention, là, à Kanawake, OK? Mm. Il se passera rien. Donc ça, une fois qu'on le sait comme un fait, là, ben là, c'est peut-être pas si fou de l'expliquer au monde, ou de donner au monde une forte... Bon, maintenant, est-ce que c'est vrai ou faux?
On va le savoir tantôt parce que ouais, Paul Laurier.
Je vais me lancer une prédiction. Moi, tu trouveras pas beaucoup d'experts. D'ailleurs, hier, il était très habile, le secrétaire des Mohawks, qui a dit il n'y a pas de AK-47 sur le blocus.
Ben oui, sur les barricades. Ben
sur
oui.
La barricade, il n'y en a pas. Là,
mais ailleurs, mon petit minou, il y en a-tu?
Ben là.
Hey, on sait-tu qu'il y a de la contrebande qui passe par Kanawake? On sait-tu qu'il y a des armes qui passent par Kanawake? Kanawake. Est-ce qu'on sait qu'il y a de la drogue qui passe par Kanawake? Il y a du tabac qui passe. On le sait-tu ou pas?
Non, mais puis... Mais donc, de l'avoir
mais
dit...
Quoi? Ben, on peut pas le dire? On le sait,
on n'a pas de preuves parce qu'on peut pas le laisser entrer de caméra ni de policier.
Non, mais quand tu lis toutes les... On va en parler, on devrait en parler avec Félix Séguin. Quand tu lis tous les livres là, de mafia... De ceux qui font de la contrebande.
Je pense même, Benoît, qu'il y en avait dans les WikiLeaks des rapports. Faudrait que tu vérifies ça avec Normand Lester. Je pense que dans les WikiLeaks, dans les rapports des consuls ou ambassades américaines au Canada, on en parlait. La puissance de ces groupes-là. Là.
Alors, nous, on fait preuve d'autocensure sans arrêt. Et là, François Legault dit, nous, on n'intervient pas parce que de l'autre côté, il y a des armes puis il y a des gens qui sont assez rock'n'roll. Et là, on va blâmer le premier ministre parce qu'il dit ça au lieu de constater c'est quoi la réelle situation avec certains membres de la communauté autochtone, surtout les Mohawks. C'est ça qui est dangereux, de pas dire la vérité.
C'est pour ça que je te dis qu'après réflexion... Puis je me dis, bon, est-ce que ça mêle le feu aux poudres? Ça, c'est l'autre affaire. Là. Est-ce que t'amplifies la crise? Bon, je comprends que c'est bien de dire ça, mais dans les faits, là, je pense que ça met tout le monde un peu plus sur ses gardes. S'il y a des gens qui se présentaient là armés ou qui avaient le goût de se présenter là armés ou avec une arme dans la boîte de leur pick-up, pardon, de leur Nissan Leaf,
Ouais. Ils se rendent pas, ils reviennent pas. Ils se rendent, mais ils reviennent pas. Faudrait qu'ils branchent ça à Kanawaki, puis je pense pas que ce soit...
Fait que, tu comprends, si arrive, quelqu'un avait eu le goût d'arriver avec une arme, ben là, tu sais, tu te sens... Le fait de l'avoir dit publiquement, là, ça fait quoi? Ouais. Ça fait que t'es un petit peu plus sous tes gardes. Là.
On l'a vu, hein?
Surveillé là-dessus.
On l'a vu dans l'Ouest canadien, là. Il y a des citoyens qui sont débarqués pour démanteler une barricade. Puis ça, le jour où on va voir ça au Québec, c'est pas une bonne idée, là. Parce que là, ça va être des conflits ouverts, puis on veut pas ça non plus. Mais en même temps, on peut pas se laisser baver, barber... ignoré. Il y a des injonctions de la Cour qui ne s'appliquent pas de toute évidence aux Autochtones, mais qui se revendiquent citoyens canadiens quand ça fait leur affaire. Là, tu disais, man, il va falloir choisir...
Non, mais Benoît, il faut que je t'arrête. Tu vas quand même, on voit quand même dans cette crise-là que Kanawaki est d'une classe à part. Là.
Ben oui.
Parce qu'en Ontario, là, je veux dire, la police est intervenue une première fois. Hier, on parle du feu. Puis moi, je l'ai couvert en direct. Puis on n'en revenait pas de ce qu'on voyait. Mais
ouais.
Les policiers, tu sais, les policiers sont intervenus immédiatement. En fait, ils n'ont pas pu intervenir immédiatement parce qu'ils étaient du mauvais côté de la voie ferrée. Il y avait le train entre eux. Il y avait le train entre eux puis ceux qui faisaient du vandalisme. Mais la minute que le train était passé, les policiers sont allés intervenir puis tout ça. Donc, il faut quand même mettre Kanawaki dans une classe unique à part, là.
Moi, j'ai une question pour vous deux. Une question quiz, il n'y a pas de toaster à gagner.
Mmh.
Et si les trains partaient, si les trains se remettaient à rouler, et quand ils arrivent devant une barricade, ben ils poussent un petit peu, puis ils dégagent les voies.
Ouais. Mais là,
qu'est-ce qui arriverait?
Les trains ont recommencé à rouler, Benoît, là. Hier, il y en est passé, je pense, dans la journée, il y en est passé 11 ou 12 en Ontario. Là.
Mmh.
Les deux premiers, il y a eu du grabuge, il y a eu un feu. Après ça, il y a des gens qui se sont mis sur la voie, puis le train n'est pas arrêté, là. Ils l'ont fait, là.
Ben oui.
Le train n'est pas arrêté, puis ils ont été obligés de se pitcher sur le côté à la dernière seconde.
Mais ici, là, il y a 3000 personnes là, qui se rendent plus, ils se rendent à Montréal par autobus, parce que bon. le train Benoît, de banlieue qui passe par Candiac, là, est bloqué.
Benoît,
mm-hmm.
Exo devrait annuler la voie, là. Annuler le service. Tu comprends?
Comment ça?
Ben parce que ça se réglera pas, là. Parce que tu passeras pas.
Excuse-moi, mais là, on peut pas plier les chaînes.
Mais non, sinon, là, tu comprends, de bandits, là. Sinon, c'est un débarquement de l'armée. Tu comprends, c'est la totale.
Ben,
c'est
va une guerre, faire...
Le Canada va passer aux nouvelles à grandeur du monde. Puis ni François Legault, ni Justin Trudeau va se permettre ça.
Mais on peut pas non plus toujours se mettre à genoux.
Regarde,
on
toi, peut tu pas dis, toujours. Toi, tu me parles d'un monde idéal, mais je te parle du monde réel. Je te dis qu'est-ce qui arrivera pas. Donc, je te dis que cette ligne-là de transport en commun, si vous en êtes dépendant, là, ben, achetez-vous un char. Si vous aviez ben non, mais c'est tout. Ouais. Si vous êtes dépendant de cette ligne-là, oubliez-la. Faites comme ça existait.
Parce qu'il y a une poignée de Mohawks qui décident de nous écœurer pour une question.
Oui, mais la voie ferrée passe. On a passé une voie ferrée sur leur territoire, là. Mais chez eux, là. Puis là, on rentre plus. Nous autres, il n'y a plus un policier canadien qui rentre chez eux. Fait que
toi, t'es devant ton kit Lionel, là, tu fabriques ton train modèle réduit, puis tu te dis, c'est quoi, cette voie ferrée-là, là, on va l'enlever, on va y mettre un petit S, puis on va la faire passer à côté.
Ben, on fait comme si ça existait. Honnêtement, là, je vois pas de solution à ça. Ben, à moins que les Mohawks, on va te dire la solution, c'est une solution négociée. Il faut leur donner, ce qu'ils veulent aux Wet'suwet'en, à Colombie-Britannique, pour que les Mohawks redeviennent de bonne humeur puis laissent passer les trains, là. Mais là, tu comprends. Qu'est-ce qu'un train de banlieue qui est soumis à la bonne humeur des centaines de Premières Nations à la grandeur du Canada? Une fois que c'est fait, le blocage des rails, ça commençait à devenir un loisir, là. Ça veut dire que pour que votre train de banlieue roule, il faut que toutes les communautés, toutes les Premières Nations soient de bonne humeur d'un bout à l'autre du Canada.
Ouais.
Moi, disons que je resterais pas dépendant d'un transport en commun comme ça. En passant, là, il n'y a pas un organisme de transport en commun. Ils perdent leur crédibilité, eux autres, là. Il n'y a pas un organisme de transport en commun qui demande le rétablissement des services. Au contraire, la plupart se sont réjouis quand une deuxième ligne a été fermée, là, à Mont-Saint-Hilaire la semaine passée, quand ils ont fermé quelques manifestants, une poignée de manifestants à Saint-Lambert. Mm-hmm. T'aurais pensé que les organismes, tout ce qui est environnementaliste, tout ce qui est vert, tout ce qui nous parle à longueur d'année dans tous nos bulletins de nouvelles après du transport en commun, qui disent, ben voyons donc, là, une poignée de gens peuvent pas priver les gens d'un service essentiel comme le transport en commun. Non, là, c'était correct. Là, le transport en commun, ça avait plus la moindre importance. C'était très secondaire. C'était prenez votre auto, il y a aucun problème. Fait que là, le prochain verre qui s'en vient sur mon plateau pour parler de transport en commun, là, il est mieux de s'habiller en ding et dong, là. Il n'y aura pas de fun en sortant, là.
As-tu vu les explications de le chef de la police de Longueuil sur le démantèlement de Saint-Lambert? pourquoi il n'y a pas eu d'arrestation? Parce qu'il voulait que ça soit de j'ai vu ça dans l'actualité, que ça soit paisible, l'actualité ou la presse.
Oui, non, mais ça, on le comprend. On a eu quand même deux exemples là, vraiment frappants, c'est-à-dire celui-là à Saint-Lambert, puis quelques jours après, dans les cantons de l'Est, où là, la police à Sherbrooke a dit bon, il n'y a pas besoin d'injonction, là, c'est un méfait, on n'embarque pas sa voie ferrée. D'ailleurs, entre toi et moi, c'est un peu ce que j'ai écrit dans le journal hier, entre toi et moi, Benoît, mettons que ma dernière chronique de décembre, je sais pas, c'était le 21, je sais plus, le 20, je sais plus, là, on avait parlé de ça, du blocage de voie ferrée, mais il n'y en avait pas, là, mais on avait parlé de ça en théorie, toi et moi. Ben, on aurait dit, tous les deux, comme tous les autres Canadiens, on aurait dit, ben, ça se fait pas, là.
Mm.
Tu bloques pas une voie ferrée. Tiens, on va bloquer une voie ferrée, les trains,
ben
c'est
oui,
essentiel.
Ça pis... Ben oui, hein? Ben oui, ça
mais
se
non,
fait.
Mais non, mais c'est qu'une fois que tu commences à le tolérer, là, ben, la police de Sherbrooke, eux, ont fait comme si ça avait jamais été toléré nulle part. Embarquer sa voie ferrée, c'est un méfait, tu fais pas ça.
Non, mais ça relève.
On t'arrête, on applique la loi, on t'arrête, viens-t'en, c'est fini.
Mais là, la façon avec laquelle ça marche, là, c'est que c'est le même. Là. Ce sont les corps policiers qui décident s'ils interviennent ou pas. Et Justin Trudeau, hier, disait que Ottawa est derrière chaque décision. Mais Ottawa s'en lave les mains.
Ottawa est nulle part.
S'en lave les mains. Là, ça retombe dans la cour des corps policiers municipaux pour une question rationnelle.
Avec pour effet que des manifestants qui ont fait la même manifestation... Dans certains cas, s'en vont chez eux puis ils se font un scrapbook de leur exploit.
Ouais.
Puis dans d'autres cas, vont avoir un casier judiciaire.
C'est ça la différence. D'autres nouvelles aussi, là. Alexandre, à propos du meurtre de Marie-Lane Lévesque.
Oui, aujourd'hui, ça risque de bouger au Palais de justice de Québec, selon, en tout cas, les informations de TVA Nouvelles. C'est Eustachio Galaise qui a décidé de plaider coupable. Alors là, conséquence directe, il serait condamné à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Alors ça, ce sera assurément surveillé au Palais de justice.
Ça va se régler vite. J'espère qu'il n'y aura pas une autre thérapie de rencontrer des travailleuses du sexe.
Ça suffit.
Merci, Alexandre. Il y a des fois, ça serait de même. Dernière affaire, Mario, ces histoires de saccageurs de logements, il y en a un qui va avoir une leçon, là, peut-être.
Ben, je regardais cette histoire-là hier. Ça se passe dans la région de Joliette. Là. T'as un type, là, il plaide coupable. Comme quoi, oui, c'est bien lui, c'est bien vrai. Il a saccagé un logement, puis là, ben, les propriétaires sont relativement satisfaits. Mais le type, là, il n'y a pas une scène, là. Je veux dire, peut-être qu'il va faire face à la justice. On dit même qu'il pourrait peut-être avoir peut-être même des quelques journées de prison.
Là. Mais peux-tu ramasser ses vidanges? On peut-tu le faire ramasser ses vidanges sur les cochonneries?
C'est un peu la question que je me posais parce que je me dis, tu sais, il y a aucune réparation. Il y a aucune réparation pour les victimes. Dans ce cas-ci, le couple, là, dire, ont perdu. Tu perds pas à peu près. Là.
Dutrisac. Parlez à Benoît Dutrisac. Par texto. 187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Culture et société.
J'ai une vieille toune des Stones dans tête. La route devant moi qui s'étire et sans tête.
Alors, toujours dans l'idée de faire l'éducation de nos colonisés du Centre Bell qui passent que de la musique anglophone lors des matchs canadiens. Ça, Anaïs Gartin-Lacroix, c'est...
Vincent Vallière.
Qui craint qu'une guitare.
Il craint qu'une guitare. OK, on
ça
part.
C'est bien entendre ça, parce que souvent, lui, il chante puis il s'excuse d'exister.
Non, non.
Mon Dieu que c'est lourd.
Non, attends un peu. Les derniers albums de Vincent Vallière sont effectivement un peu plus tranquilles. Gratteux, toutefois, là. Oui, si on remonte au premier album, notamment avec Bordel ambiant, là, ça grouillait pas à peu près. Il y avait beaucoup plus de guitare.
Mais c'est
ça
qu'on
vous venez d'entendre.
C'est ça qu'on aime, là, chez nous, avec l'histoire. Pourquoi t'es en sacramouille ce matin, toi?
Je pense sacramouille.
T'es en sacramouille,
ben
t'as eu quelqu'un au
ben
Québec.
Ben non! J'aurais aimé ça gagner 70 millions. Voilà, c'est dit.
Ah, tu prends bien?
Hey, oui, j'en prends jamais en plus, mais j'en ai pris.
T'en as pris,
j'en
t'as pas gagné?
J'en ai pris un, j'ai pas gagné, semaine, je suis déçu.
Ça se mène pas une bonne vie. C'est ça, c'est tout ce que...
Hey, on est une gang à pas mener une bonne vie.
Mon Dieu, c'est comme la grosse majorité.
Hey, ouais, c'est
tout évident. Des nouvelles du 281.
Le 281 qui fermera ses portes. On va se mettre dans l'ambiance.
Pas tant.
Ben oui.
Ben non.
Ben oui. Ben non. Je crois que dans le vidéoclip, c'est une femme qui danse, mais ben quand oui. même, ben oui, mais c'est la chanson de striptease par excellence. Qu'est-ce que t'aurais voulu que je mette comme chanson?
Je pense que c'est pas la même dynamique, hein, un bar de danseur puis une bar de danseuse.
Je veux juste pour vous dire à quel point ce n'est pas la même dynamique. Si vous allez sur le site du 281, on commence lorsqu'on arrive sur le site avec une grosse toile, c'est un torse signé Corneau. Nommez-moi un bar de danseuse à Montréal qui sur le site internet, à la page d'accueil, c'est une toile signée Corneau, une belle toile de bon goût. Là.
Je trouve que t'es pleine de préjugés parce que je me souviens rapidement l'image du super sexe sur la rue Sainte-Catherine lors du défilé du Père Noël où t'as des...
Tout ça, c'est trash, ce que tu dis présent.
C'est tellement trash. Et là, t'as les femmes en quoi?
Je peux pas t'aider.
En vêtements de travail, c'est-à-dire pas grand-chose, qui survolent les tables. On avait ça. Là, je trouvais ça aberrant. Moi, j'amenais les petits pits, mes plus vieux, j'amène voir le Père Noël. Et là, derrière le Père Noël, t'as le super sexe et les pitounes. C'est pas.
Alors non, là. On est loin de Corneau.
On est loin de Corneau.
Donc, c'est confirmé. Le 281 va fermer après quand même 40 ans. On se rappelle que c'est une histoire de famille. Ça a commencé, ça a mis à avec le Crazy Horse. Donc, là-bas, il y avait un bar de stripteaseurs et c'est comme ça que l'idée est venue de faire ça à Montréal, les stripteaseurs. Je sais pas. Toi, Benoît, t'es déjà allé?
J'ai déjà allé, oui.
C'est une ambiance, comme tu dis.
Madame Truisa n'a pas trippé.
Mais c'est parce qu'on est complètement ailleurs. Là. Si vous allez dans les bars de danseuses, c'est très sombre. On peut aller, oui, des fois, c'est des danses et il se passe des fois quelque chose d'un peu plus osé. Je vous dirais, versus le 281, tout d'abord, vous devez savoir que souvent, bon, c'est en gang. Ça a beaucoup changé avec l'arrivée d'Internet, toutefois. Dans les dernières années, il y avait l'image des filles qui arrivaient en autobus, là, qui partaient là, pour faire un gros party. On débarque au 281. Évidemment, avec l'arrivée d'Internet, ça a beaucoup plus... ça a diminué. Donc, pendant plusieurs années, c'était ouvert 7 jours sur 7. Là, on est rendu à 3 jours semaine. Donc, il y a une différence. Et au 281, on vous place. Donc, c'est pas vous qui décidez où vous allez. On vous place à l'arrière de la salle. Et plus vous criez, plus on vous approche de la scène.
Ah,
donc,
oui.
En partant, c'est un show. Les femmes vont là pour voir un show. On peut pas toucher. Garçons, oui, sont près de nous, mais...
On s'entend, là. Hein? Vraiment, là. Ça regarde pas le curé, puis ça regarde pas...
Non, mais c'est un gros party. Ce sont des chorégraphies. Les gars travaillent. Mmh. Annie Delisle, qui est la propriétaire, là, tu marches les fesses serrées là-bas. Là. Annie, là, je veux dire, elle est drôle, mais en même temps, elle run ses gars sur un moyen temps. Donc, c'est quand même triste de savoir que le 281 fermera. Évidemment, il pourrait y avoir un acheteur. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans les prochaines semaines, c'est le temps d'y aller parce que les gars vont se donner et pas à peu près.
Il y a fort longtemps, ça vient de me rappeler ça. On avait je te disais, j'avais des amis, puis on se tenait dans Troumont. Là,
ouais.
On avait Laurent qui avait un logement dans un demi-sous-sol. C'est vraiment un crado. Et son coloc dansait au 281.
Non, mais ils font de l'argent.
Puis ils nous avaient fait l'hélicoptère.
Tu me niaises. Il y a le stade olympique hein, aussi que c'est possible.
Avec sa bisoune. Oh. C'est tellement niaise.
Mais c'est pas juste les gens qui travaillent au 281 qui sont capables de faire l'hélicoptère, je te le confirme. Non. Mais bref, voilà. Hey, j'aimerais ça là, que les gens puissent te voir. Benoît, t'es rouge comme ta chemise.
Non, mais
tu es rouge comme ta chemise.
C'est
Céline Dion maintenant.
Oui,
Céline Dion. On jasait de Céline Dion.
Tu me parlais de Chris Isaac.
On a jasé de Chris Isaac cette semaine. On jasait le film. De quoi on jasait?
De Nicolas Cage. Puis c'est Chris Isaac qui a fait la trame sonore.
Qui avait fait la trame sonore du film. Mais écoute, on s'en dit des affaires. Là, je peux pas me souvenir de tout, mais je me souviens qu'on a parlé.
C'est le début de la fin. Hein? Tu en perds des bouts, là. C'est pas pratique quand t'es dans les médias.
Je sais.
Céline Dion, donc.
Oui, qui a repris la chanson de Chris Isaac, Wicked Game. What a wicked thing to do, to make me dream of you and I don't wanna fall. Et selon le magazine Rolling Stone, la version de Céline Dion capture l'esprit sensuel de l'original. Vous entendez Chris Isaac qui a fait également des voix, on a les harmonies. Et ça, c'est Spotify qui organise ça depuis 2016. Donc, on demande à des artistes de reprendre des chansons d'autres artistes connus. C'est le choix de Céline.
C'est vraiment bon.
C'est bon.
Je l'ai entendu, là. Céline Dion, quand elle veut.
Un peu
en désespoir. Et influencée par Chris Isaac. C'est la culture aussi là, de Chris Isaac là, qui est capable de reproduire à sa façon.
Ben tellement. Et pour terminer, Chris Isaac a dit « Fred Astaire, on le voyait danser. Lui, ça avait l'air facile. Il dit « Lorsque Céline chante, c'est comme Fred Astaire. Ça a toujours l'air facile. »
Fantastique. Merci, Anaïs.
Bienvenue!
Du Trizac. En direct de 6 à 8. et sur mesure à tout moment de la journée.
Personnalisez vous-même votre écoute avec l'option Dutrisac sur mesure.
Dutrisac.
François Legault disait qu'il y a probablement des AK-47 sur la Canisse attaquée. On l'écoute.
On a effectivement des renseignements qui nous confirment qu'il y a des armes, des AK-47.
Oui, à Kanawake, pas à Canisse attaquée. Paul Laurier est avec nous. Paul, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bonjour, tu as été chef d'équipe au renseignement de sécurité autochtone, sociale et vigilance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
À l'époque, il y avait une équipe de renseignement qui s'assurait qu'il était poste, qui avait été mis en place, qui était là avant, mais qui avait été mis poste opération au cas, puis qui était en charge de reculter, d'aller chercher des renseignements sur les réserves Kwassassiné, Kanakis Attaqué et Kanawaki. Donc, c'était spécialement dédié à avoir des informations et du renseignement sur ce qui se passait sur les réserves et territoires.
Est-ce que M. Legault a raison?
Ça, c'est comme, est-ce que le but d'aller côté est bon, mais si M. Legault a dit deux choses, a spécifié l'arme et a spécifié le mot renseignement dans la terminologie policière. Quand on a des renseignements, ça veut dire que l'information est collaborée. L'information est validée par plusieurs sources et moi, je peux vous dire que cette information-là, elle est connue depuis quelques... Ce renseignement-là est connu depuis quelques jours, voire des semaines. Dès que les barrières se mettent en place, il y a déjà... puis on sait que l'OPP est allé aussi dans une réserve. Donc, M. Legault n'a pas lancé ça dans les verres. Maintenant, il y a toutes sortes d'interprétations. Est-ce qu'il devait le dire, est-ce qu'il ne devait pas le dire? Est-ce qu'il a bien fait, pas bien fait? Est-ce qu'il a vu sur le feu, pas sur le feu? Ça sera au commentateur à dire ou les ceux qui ont usé. Sa déclaration est simple. On ne les voit pas sur les lignes de blocage, mais dans la tradition du Mohawk Society, des Warrior Society, en fait, c'est des gens qui sont placés pour se défendre et les armes font partie des défenses.
Mais là, c'est pas des armes de chasse, là, Paul, là, c'est des armes automatiques.
Bon, ben, en AK-47, c'est connu mondialement. On va voir souvent on va entendre souvent ce nom-là là, parce qu'elle a été produite par les Soviétiques à grand volume. Elle est un peu comme les 303 British. Là, ça a inondé le marché, mais ils ont plus d'armes que ça. Puis, AK-47 est connu pour le trafic d'armes, là, parce que à quoi ça sert, vous passez des États-Unis à Lille, au territoire, à l'Ontario, puis en passant par le Québec, facilement. Là, il y a des rangs traditionnalistes, il y a des rangs aussi, comprendre la société autochtone, là, ou Mohawk, si vous avez des longhouses.
Mais c'est un lieu de contrebande, là.
Oui, ben en fait, la contrebande, même Kanawaki, vous le voyez, le tabac, le pot, les jeux, c'est normalement des choses illégales pour les blancs, en guillemets, quand on dit le blanc transparent, mais culturellement, traditionnellement, c'est des activités qu'on laisse faire.
Donc, c'est connu, c'est confirmé, les renseignements policiers savent qu'il y a des... AK-47, si on l'identifie parce qu'on sait qu'il y a ce genre d'armes-là sur la réserve.
Oui, puis c'est commun, là, c'est des armes communes. Maintenant, quand on écoute M. Deere, tout ça, c'est sûr. Puis, regardez ce qu'il vous dit ici, à la barricade. C'est certain qu'il n'y a pas personne qui va aller s'installer avec des armes à la barricade. Mais en arrière, on peut partir en arrière des blocus, la défense est là. C'est des systèmes de défense, c'est des gens qui... Les Warriors vont répondre à une agression de Kutcha.
Ouais.
Principalement celle de la SQ qu'ils détestent le mot SQ, on le voit qu'ils n'ont pas aimé. Puis, évidemment, le conflit va. Est-ce que ça met de l'huile sur le feu? Peut-être. Est-ce que la barricade a raison d'être là? Non, c'est un acte criminel. C'est des méfaits qu'on fait et que la police de Kanawaki ne réagit pas. Donc,
parfait.
Le chef de police a dit: moi, j'interviendrai pas. Ça, la police. Le nœud n'est pas dénoué. On va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer.
C'est bon. Paul Laurier, ancien enquêteur de la Sûreté du Québec. Merci, Paul.
Merci, Benoît. Bonne journée.
Dutrisac.
On a aussi avec nous Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Monsieur Blanchet, bonjour.
Bien le bonjour.
Comment vous réagissez, là, venez d'entendre Paul Laurier, qui était de la Sûreté du Québec, là, qui dit que ce que M. Legault a affirmé à propos des armes automatiques, comment vous réagissez, là? Avez-vous l'impression que c'est en train de déraper, cette situation-là?
Moi, je pense qu'en fait, il y a quelque chose. La première, c'est que je ne sais pas s'il y a des AK-47 ou pas, puis moi, ces informations-là ne se rendent pas à moi et je ne les demande pas. On a toujours pensé, ça c'est pas nouveau, qu'on a l'impression que sur certaines communautés ou dans certaines communautés, il y a des choses qui sont illégales en vertu de nos lois. Et effectivement, ce qui est criminel reste criminel. Hein. Puis la posséder des armes automatiques, c'est évidemment pas acceptable. Ça, il n'y a pas de discussion. Puis je suis de ceux qui disent que les barricades sont aussi illégales, ne devraient pas exister, ne devraient pas être là. Ma crainte étant que parce que celle de Belleville est plutôt, en général, elle n'existe plus, même s'il y a encore des comportements, la pression sur les autres va être moindre parce que le nœud central de l'économie canadienne est rétabli si Belleville rouvre, puis je pense pas que le fédéral s'empêche de dormir à cause de ce qu'elle est attaquée présentement. Tout ça change beaucoup, beaucoup la dynamique, mais la solution du fédéral qui a été de pelleter activement le problème dans la cour des provinces pour ne pas eux autres être responsables d'éventuelles interventions policières, c'était irresponsable. Pas parce qu'il fallait pas lever les barricades, mais c'était irresponsable parce que c'était pas la bonne façon de lever les barricades. On leur avait dit, faites attention, si vous procédez par la force, vous allez faire émerger d'autres barricades un peu partout, vous allez provoquer une possible escalade dans le conflit, dans les moyens qui vont être pris dans le cadre de ce conflit-là, et ça va juste le prolonger et l'empirer, et c'est en effet ce à quoi on a assisté.
Il faut quand même, appliquer la loi, hein, M. Blanchet, à travers le Canada. Là, on peut pas avoir une loi pour tout le monde et une autre loi pour les Autochtones. Là, il vient d'avoir une injonction de la Cour, puis de toute évidence, ça s'applique pas aux Autochtones. Ils reconnaissent pas les tribunaux quand ça fait pas leur affaire.
Je suis d'accord, totalement. C'est illégal, il faut appliquer la loi. Mais il faut que tu aies le moyen d'appliquer la loi. Dans le cas présent, ça va être quoi ton moyen d'appliquer la loi? Tu vas envoyer la police faire un affrontement comme on l'a connu à Oka? Tu vas mettre en danger des vies humaines? On n'en est pas là, puis il faut pas se rendre là. Fait que dire oui, on va faire appliquer la loi, j'ai envie de dire OK, tu veux faire ça comment? On va pas.
Ben, en appliquant la loi, M. Blanchet, faut arrêter d'avoir peur de son ombre.
Tu vas appeler l'armée, tu sais, à un moment donné, là, tu peux pas juste dire OK, on applique la loi. T'as pas. D'abord, des cas où la loi n'est pas appliquée parce que les forces policières sont pas capables, c'est pas réservé aux Autochtones, là.
On parle de ce problème-là. Vous avez dit à M. Trudeau...
La solution n'est pas de provoquer une escalade. La solution aurait dû être, dès le départ, de prendre les termes principaux qui étaient invoqués, pas les demandes des Autochtones, les termes qui étaient litigieux, c'est-à-dire retirer la GRC du territoire des Wet'suwet'en, suspendre les travaux, aller rencontrer ces gens-là. Justin Trudeau est prêt à faire le tour du monde pour avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'est pas prêt à mettre ses fesses dans un avion pour aller en Colombie-Britannique rencontrer une nation de 3500 personnes.
Ouais.
T'sais, à un moment donné, tu fais preuve d'un peu de leadership, tu te fais respecter.
Mais là, attendez, M. Blanchet, en même temps, là, on peut pas courber les chines sans arrêt. 3100 personnes, c'est même pas une ville. On peut pas être pris en otage par quelques... En plus, c'est une chicane interne entre les conseils de bande et les chefs héréditaires.
Les chicanes internes, c'est pas vos affaires, c'est pas les miennes, c'est à l'intérieur de leur...
Mais pourquoi ils nous écartent d'abord?
On en a des chicanes internes, nous autres aussi, puis ils viennent pas commenter nos chicanes internes.
J'espère bien. C'est pas eux autres qui font des chèques, là.
Faites attention. Si vous voulez aller là, on va aussi reculer dans l'histoire.
Non, on va pas reculer dans l'histoire. On a assez reculé dans l'histoire. On met 11 milliards là-dedans, là. On peut-tu régler des problèmes? On peut-tu avoir les vrais Autochtones qui vivent les problèmes au quotidien et pas avoir quelques porte-paroles, quelques bandits qui veulent un pizzo sur une entente?
Si vous voulez poser les questions, fournir les réponses vous-même, vous n'avez pas besoin de m'appeler. Si vous voulez ma réponse, je vais vous la donner.
On ne peut pas tourner en rond sans arrêt non plus, là.
Il n'y a pas de problème, j'ai pas l'habitude de tourner en rond les entrevues. Les mesures qui ont été mises en place sont pas efficaces. On peut dire que c'est désolant, déplorable, je suis le premier à le dire. Cependant, si tu fais rien qui est plus efficace, si tu mets rien de l'avant, si tu proposes rien, si le gouvernement se comporte comme vous ou comme l'opposition ou comme moi, puis fait juste dénoncer ce qui n'est pas correct et ne cherche pas de solution, il ne se comporte pas comme un gouvernement. À l'heure actuelle, le constat, c'est qu'il n'y en a pas eu de solution. On ne peut pas juste dire « c'est la faute des méchants Indiens ». On n'est plus là, là.
Savez-vous ce qui est étonnant dans tout ça?
Leadership. Il est supposé dire « je vais aller vous voir, on va régler ça ». ça peut pas durer. Et s'il fait ça, qu'est-ce qui va se produire? Le poids politique va passer du bord des Wet'suwet'en qui vont, eux autres, être ceux qui auront été de mauvaise foi, qui vont perdre leurs appuis.
Ouais.
Mais pour l'instant, le premier ministre, il fait des yeux chevreuil au Parlement puis il répond pas aux questions.
Savez-vous ce qui est étonnant dans tout ça, M. Blanchet? C'est que on se parle, vous et moi, là. Vous êtes du Bloc québécois, là. Et il y a personne du gouvernement Trudeau qui prend la parole comme vous le faites, qui s'assoit. Vous avez dit au premier ministre, vous avez raison, vous avez fait le tour du monde là, pour aller chercher un siège à l'ONU. Vous n'êtes pas capable d'aller en Colombie-Britannique. Il vous a répondu quoi quand vous lui avez dit ça?
Il répond toujours les mêmes phrases. Ça, c'est quand il lit pas sa feuille. Le problème, c'est que la fonction d'un premier ministre, que ce soit d'une province ou que ce soit du Canada, c'est d'être capable d'envoyer un message fort à la population pour leur dire, écoutez, on va régler le problème. Et de dire à la nation autochtone ou aux nations autochtones, vous allez nous prendre au sérieux, on va régler ce problème-là. Et les gens vont commencer à dire, ouais, on pourra pas faire n'importe quoi. Le problème, c'est que dans les comportements de la ministre Bennett, du ministre Miller et du premier ministre, justement, l'autre bord de la barricade, les Premières Nations savent qu'ils peuvent faire n'importe quoi parce que l'interlocuteur est ni dangereux ni crédible.
Là, ça fait quoi, 22 jours, là? Vous pensez que ça va durer combien de temps encore? Comme c'est là, là.
Ma crainte, c'est que si en effet la barricade de Belleville est levée, donc le CN n'a plus les plus gros problèmes qui ont paralysé l'économie canadienne, les barricades plus secondaires vont être toléré par le gouvernement qui va dire « je me mets pas dans le trouble pour ça, je vais laisser les provinces régler le problème ». La bonne nouvelle, c'est que la Colombie-Britannique, elle, essaie de faire justement ce que Justin Trudeau fait pas. Ils ont interrompu les travaux. La GRC a elle-même dit « on est prêt à se retirer du territoire » et il y aurait une rencontre entre les autorités de la Colombie-Britannique et les Wet'suwet'en aujourd'hui. Si ça a effectivement lieu et qu'il y avait éventuellement une entente et que les Wet'suwet'en levaient leur propre barricade, mais il n'y a plus de raison, il n'y a plus de motivation pour celles qui sont présentement installées au Québec ou en Ontario.
Okay.
Ce serait la Colombie-Britannique qui aurait de la bonne manière réglé le problème du gouvernement canadien.
OK, avant qu'on se quitte, il y a quand même un aspect positif, là, cette entente là, pour protéger l'aluminium québécois dans le cadre du nouvel ALENA. On a fait des progrès là-dedans.
En fait, on a pas gagné dans le sens, je veux pas faire une game partisane avec ça. On a fait une négociation de bonne foi avec Mme Freeland. Le document même qu'elle nous a envoyé reconnaît que l'aluminium n'était pas protégé comme l'acier, que l'aluminium pourrait être protégé comme l'acier, met en place les mesures potentielles si les vérifications confirment que la protection est nécessaire et reconnaît que c'est à l'initiative du Bloc québécois. Donc, pour moi, c'est tout à fait satisfaisant. J'essaie de rester à l'extérieur de la game partisane, mais peut-être, en effet, que cette entente-là entre le Bloc québécois et le gouvernement, que tout le monde disait impossible ou inutile il n'y a pas si longtemps, va contribuer à sauver des milliers et des milliers d'emplois au Québec à moyen terme.
Comment vous avez trouvé ça que Justin Trudeau exclut Andrew Scheer de la rencontre de la semaine dernière?
Le tout début, en fait, il y a deux semaines, la première intervention de M. Scheer, ma foi, avait des relents vraiment assez racistes. Là. Il y avait vraiment, passe-moi l'expression, les bons Indiens puis les pas bons Indiens. Puis les bons Indiens, c'est ceux qui pensaient comme les conservateurs, puis les autres, c'était des pas bons Indiens. Puis ils parlent de mob, là, tu sais, c'est vraiment pas très poli. Et c'est le genre de choses qui, justement, mettent de l'huile sur le feu puis enveniment les crises comme celles qu'on connaît. Moi, je comprenais très bien, mais ma première intervention, ça a été pour dire, écoutez, associez-nous pas à ce côté-ci de la Chambre aux conservateurs, on n'est pas du tout à la même place, on n'a pas ce genre de jugement-là à l'encontre des Premières Nations, on peut pas généraliser non plus parce que il y a Wet'suwet'en, il y a les Mohawks, il y a un ensemble de Premières Nations, au Québec, il y en a 10 des Premières Nations, chacune a sa culture, son approche différente, même entre eux autres. C'est pas vrai que chacune des communautés au Québec est d'accord avec ce qui se passe, mettons, à Kennesataki ou à Milwaukee. Ils ont toutes leurs opinions qui sont différentes les uns des autres.
Puis en même temps, Justin Trudeau serre la main avec enthousiasme du ministre des Affaires étrangères iranien, mais il veut pas parler au chef de l'opposition à la Chambre des communes.
Ça, c'est son jugement. Lui, ça veut pas. Un n'a pas de lien avec l'autre. Qui n'est pas invité à cette rencontre-là, Andrew Scheer, moi, j'ai trouvé ça plutôt compréhensible. Qui donne la main au ministre des Affaires étrangères de l'Iran dans le contexte de la crise qu'on avait, puis que la crise actuelle fait oublier celle de l'avion qui a été abattu en Iran, de la même manière que ça mange l'espace qui devrait être occupé par la crise à l'échelle planétaire autrement plus grave du coronavirus. Ce sont des enjeux distincts, mais c'était une erreur d'aller faire une photo avec le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, qui pour l'instant n'est pas du tout un voisin fréquentable.
Mmh. On se laisse là-dessus. François Blanchet, merci.
Un plaisir, comme toujours.
Au revoir.
Dutrisac. En direct de 6 à 8. Et sur mesure à tout moment de la journée.
Personnalisez vous-même votre écoute avec l'option Dutrisac sur mesure.
Dutrisac.
Jean-Philippe Bertrand est co-animateur des Partants. Il est à TVA Sports chaque matin. Jean-Philippe, bonjour.
Salut, Benoît.
Bon, alors, c'était plein hier au soccer, au Stade Olympique.
Plein, non. Il y avait 21 500 quelques spectateurs. Alors, ben, c'est une foule.
C'est un centre belle.
Oui, c'est un centre belle. Exact. C'est une foule respectable. C'est sûr que 21 000 spectateurs dans le grand stade olympique, ça peut parfois donner l'impression que c'est un peu vide ou dégarni, je dirais. Mais l'un des problèmes hier, puis ça, c'est un problème récurrent, c'est la fameuse rotonde, là. Tu sais, t'as 20 000 personnes, là, t'sais, on va dire, t'as la moitié qui tente de rentrer dans le stade. T'as 10 000 personnes qui sont jammés, là, passe-moi l'expression populaire, mais complètement là, emprisonnés dans la rotonde. Il me semble de mémoire, à l'époque des expos, il y avait des entrées un peu partout dans le stade olympique. Il y avait plus qu'un accès. Tu sais, il me semble, je me rappelle, j'y allais avec mon père, puis on pouvait passer par l'extérieur.
Ben oui.
Là, il y a une seule entrée, et là, tout le monde converge.
Tu veux acheter tes billets sur un guichet qui donnait à l'extérieur.
Exact.
Puis tu rentrais dans la porte à côté.
Bon, mais c'est ça. Bon, c'était ça mon feeling. Mais hier, là, écoute, là, il y a des. Nous autres, on s'est faufilés. Là, je te cacherai pas que j'ai sorti ma carte de journaliste pour passer un peu plus vite, là. Parce que, écoute, hier, là, il y a du monde qui sont restés prisonniers, littéralement prisonniers pendant 50 minutes dans la rotonde. Écoute, il y avait du monde, ça avait aucun bon sens. Là. Cette seule entrée vient vraiment miner l'expérience client d'un match. Au stade olympique. Bon, une fois rentré, le problème, c'est que le spectacle n'a pas été plus grandiose que ça. Pour expliquer aux gens à la maison l'enjeu du match d'hier, c'est le fameux tournoi de la Ligue des champions de la CONCACAF, les huitièmes de finale. L'Impact affrontait un club costaricain du nom de Saprissa, et on avait fait verdict nul 2-2 au Costa Rica. Alors, on pouvait se permettre de revenir à la charge, et un verdict nul était suffisant. Parce que les buts à l'étranger ont une valeur ajoutée en cas de bris d'égalité. C'est exactement ce qui est arrivé. Le match est terminé 0-0. Alors l'Impact qui remporte cette ronde face au club de Saprissa et va affronter lors des quarts de finale le gagnant du duel entre un club du Honduras qui s'appelle Olympia ou les Sounders de Seattle. Mais hier, point de vue spectacle, ça a pas été vargeux, comme on dit en bon québécois. Thierry Henry, qui était allé d'une formation très défensive, le but était d'aller chercher un verdict nul, d'aller chercher le résultat. En d'autres mots, il s'est dit « au diable le spectacle ».
Bon, ben ça commence de même. Est-ce que ça augure pour la ce à quoi on doit s'attendre pour le reste de la saison?
Ben on se voit pas de cachette. L'Impact n'a pas sur papier une grande équipe, tu sais, surtout depuis le départ de Nacho Piatti. Mm. Alors j'ai l'impression que Thierry Henry va compenser le manque de talent par un schéma tactique et technique collectif et très, très, très défensif. Alors, je ne serais pas surpris que c'est le genre de match auquel on ait droit un peu plus tard en saison. Mmh. Là, pour les gens qui l'ignorent, hier, c'était le match de comme je vous le disais, de la Ligue des champions de la CONCACAF. Mais on retourne au Stade olympique samedi, alors que c'est le début de la saison en MLS. Et ça, d'un point de vue marketing, c'est un énorme défi pour les gens de l'Impact de Montréal. Ben pas de remplir là, mais de garnir le stade olympique deux fois en l'espace de 4 jours. Honnêtement, c'est un bon défi. Alors tu l'as mentionné, il y avait 21 000 spectateurs hier, un mercredi soir, alors qu'on annonçait tempête. J'ai bien hâte de voir la foule qu'on présentera samedi pour la grande rentrée montréalaise en MLS de l'Impact de Montréal.
Écoute, je profite de ta présence, Jean-Philippe, puisque c'est le moment de parler de sport. Hier, au Franc-Tireur, on diffusait une entrevue avec Danny Machocha et Mario Cecchini des Alouettes. Et j'invite Marc Bergevin à regarder l'émission. Tiens, laissez faire tous les réseaux américains, puis peut-être aller voir c'est quoi Télé-Québec, le trouver sur son satellite peut-être, là, mais... voir c'est quoi relancer une équipe à Montréal, au Québec, d'avoir une fierté québécoise, d'être conscient de l'importance de la culture québécoise dans cette équipe-là pour que ça pogne avec les gens, pour qu'on sache que c'est une équipe de Montréal au Québec avec le plus possible des joueurs d'ici. Écoute, Danny Machocha, je l'avais jamais rencontré, là. Il est d'une fierté, ce gars-là. Il racontait que, il a demandé à Edmonton, il a cassé une télé parce qu'il était en train de perdre un match. Et finalement, ils ont gagné le match. j'avais devant moi deux hommes qui voulaient que ça marche, qui comprenaient qu'ils étaient au Québec et à Montréal et qui voulaient prendre les moyens pour y arriver, ce que Marc Bergevin n'a pas l'air à comprendre.
Et Danny Machocha est un ami de l'émission Les Partants. Là. Souvent, on l'a reçu, puis c'est toujours un grand plaisir de collaborer avec lui.
Il veut gagner dans la vie, ce gars-là.
Il veut gagner, mais ce que je trouve intéressant, et tu pourras faire le parallèle que tu veux avec Marc Bergevin, si tu veux le faire, mais lui, il est passé de la parole aux actes. Quand il a dit là que à talent égal, on allait aller chercher des Québécois, il l'a fait. L'entre-saison a été très intéressant pour les Alouettes, et il est allé chercher. Lui, il se dit, là, le talent qu'on a au Québec et dans le circuit universitaire québécois et donc canadien, on est aussi bien de se l'approprier. Alors, il est allé chercher plusieurs de ses anciens des Carabins, des gars qu'il connaissait forcément, mais il lance l'appel également aux autres programmes, là, Sherbrooke, ouais. McGill, ouais. Concordia, surtout l'Université Laval. Il espère que ces cinq programmes québécois fournissent le grand club qui représente les Alouettes de Montréal. Alors effectivement, moi je trouve qu'il a fait, en tout cas du moins jusqu'à l'instant, un très très bon boulot comme directeur général.
On a hâte que ça commence, hein? C'est au mois de juillet. On a hâte on va s'en reparler. Merci, oui. Jean-Philippe, à demain.
Je t'en prie, on s'en parle demain.
Salut. Bye.
Dutrisac, la première émission de radio à la carte.
Oh, Pierre Nantel s'en vient.
Bonjour, Benoît.
Monsieur Martineau, il est quelque part sur la planète.
Oui, ben tant mieux. C'est la semaine de relâche. Il y a beaucoup de monde. On le constate d'ailleurs en termes de trafic. Hein, c'est comme on rentre à Montréal.
Léger, hein?
C'est merveilleux.
Ouais, c'était toujours comme ça.
Ah oui, ouais. Mais honnêtement, puis dans le vide général, au niveau de la circulation, ben on peut constater aussi le vide politique, parce que honnêtement, c'est déprimant. C'est aujourd'hui. C'était la date limite pour les candidatures au Parti conservateur.
Ah oui, puis tu te présentes pas finalement.
Ben écoute, j'ai beaucoup changé, comprends-tu. Non, mais c'est tellement déprimant de penser que le Parti conservateur finalement, à cause qu'ils ont voulu faire ça vite, à cause qu'ils ont voulu être prêts pour la prochaine campagne électorale, ben ils vont pas renouveler leur offre politique.
Est-ce que ça leur prend?
Ah ouais,
comme au Parti libéral du Québec, d'ailleurs. Un humoriste.
En tout cas, ça serait le fun d'avoir des jeunes. En partant, ça serait le fun d'avoir des jeunes. Puis la course au PQ nous fait voir des nouveaux visages, puis c'est très bien. Puis bon, moi, je déplore toujours que Marois Risky se soit désisté, finalement, pour soutenir M. Cusson. Mais des jeunes, ça serait le fun.
Mais là, tu sais pourquoi?
Ah oui, donc?
Ah, tu sais pas pourquoi?
Non, je sais pas de quoi tu parles.
Non, moi non plus.
Bon, OK, d'accord. Mais ce qui est certain, c'est que c'est très triste de voir que le Parti conservateur s'en va juste vers, on répète à peu près, la même offre politique
là,
que
Raphaël Beauchir. Tu vas avoir quoi, Peter McKay?
Ben là, écoute, choix entre Erin O'Toole, Peter McKay. Il y a Mme Gladue, que j'ai eu la chance de côtoyer, qui est vraiment une femme... Oui, Marilyn Gladue?
De la Rive-Sud?
Non, non... Oui, l'ancien...
Il y en a une qui était de... tu sais, le film avec Tom Hanks, là, les...
The Gladue?
Non, non, pas la scientologie.
Ah oui, le fameux film de Gladue.
Non, non, pas le film de religion, là, où il portait la cilice.
Oui.
Puis j'avais reçu Mme Gladue qui portait la cilice.
Arrête.
Je te jure, à TQS, tu me l'avais montré.
T'en as rencontré des gens étranges, toi.
Mon Dieu, je le fais présentement.
Ben oui. C'est méchant, ça. Je ne porte pas la cilice. Je te rassure tout de suite. Mais quand tu vois, je regarde M. Fortier qui a écrit aujourd'hui encore dans la presse, puis qui arrivait avec un regard tout à fait sain sur les investissements qui ont été faits par le public. Par rapport au public, par rapport à Bombardier sur la compétence puis le know-how des travailleurs en aérospatial au Québec, tu vois tout de suite qu'il sait placer le débat au bon endroit et le Parti conservateur se prive de ce genre de candidat-là parce qu'il s'est dit, écoute, la course est trop courte. J'aurais pas le temps de ramasser assez de gens, assez de soutien. Puis on se retrouve donc avec deux vieux dinosaures. C'est super. La politique fédérale, c'est plein d'espoir.
Plus ça va, plus on entend. Puis c'est drôle, Mario me disait hier, on regardait les démocrates, là, et sur 340 millions d'Américains, c'est tout ce qu'ils arrivent à offrir pour le Parti démocrate. On dirait que la politique, il n'y a plus personne qui veut en faire.
Ah, ben là, tu vois, moi, je sais pas, je connais pas, j'ai pas entendu l'argument entre toi et Mario. je continue de croire que Michael Bloomberg aurait pu être un candidat indépendant merveilleux. Bon, c'est pas comme ça que ça marche aux États-Unis, parce que son parcours est intéressant. Hein? Il est longtemps, il s'est référé.
76.
Oui, bien, effectivement. Ça, si on parle de jeunesse, effectivement. Mais c'est pour ça que Buttigieg, espérons qu'il va, il va revenir à la prochaine course.
Il y a la grippe, là. Il a suspendu sa campagne en Floride.
Oh, mon Dieu, mais Donald Trump va dire qu'il n'y en a pas de problème. Il est bien correct.
Que c'est une petite nature.
On est les Américains, nous autres, le coronavirus, ça ne touche pas.
Ça ne touche pas. C'est Mike Pence qui va s'occuper du dossier, qui est un cadeau fini.
Est-ce que ça te rassure?
Ben, pas pantoute. Faites-vous une petite prière, puis le virus va passer par-dessus votre maison. C'est un peu... Non, mais c'est...
Un peu de Saint-Crène.
Non, mais lui, c'est pas Monsieur Science.
On met pas du Vix. On se met du Saint-Crène.
Du Vix, ça aide. Du Saint-Crème, je sais pas c'est quoi.
Tu sais pas c'est quoi du Saint-Crème? Mon Dieu, on n'a pas la même éducation judéo-chrétienne, pourtant. Ben, le Saint-Crème...
Mais... Écoute, ma mère a envoyé promener le curé à un moment donné.
Ah, fait que c'est de famille, ce genre d'attitude. OK.
Il a dit d'aller se secouer. D'aller secouer.
Bon, OK. Je pense qu'on va arrêter ça.
Hey, quatre gars. Bonne journée. Là, le curé vient lui dire, faudrait faire... Hey, toi, là... ce qu'il a fait en confessionnal.
Les Dutrisac ont du caractère.
Okay. Dorion. Dorion, je sais pas si elle est parent avec Catherine Dorion, mais ma mère, c'est une Dorion.
En tout cas, de toute évidence, t'as des beaux gènes.
Ah ouais, non, ça bouillonne là-dedans. Bon, ben, bonne émission, Pierre.
Hey, merci.
Et bien, on se reparle demain. Salut.